believe it, the road will turn and you can set your sights on a new horizon. Your mouth is dry and the pavements burn the longest mile. You live and
Hello les filles, ça faut le dire avec vous tous les mercredis de 20h à 22h avec Cécile à la technique qui est toute belle avec un très joli sourire et Anne à côté de moi qui vient de trouver son casque. Anne,
Tu
tu
te
dis
crois
bonjour au
drôle?
micro.
Oui, ça y est. Est-ce que le micro fonctionne?
Attends, c'est mieux.
Ah oui, ça,
je suis un peu dyslexique ce soir, je ne vois pas bien les couleurs.
Ça va un peu fort, non?
Oui. Oui, un peu.
Attention, parle. Ah, ça c'est mieux.
Non, non, moi je crois que c'est bon.
Oui,
vous voulez le
maintenant c'est bon.
Contrôle, c'est bon.
Il ne faut pas qu'on soit trop près du micro. Eh bien, bonsoir à toutes. Nous sommes fidèles au poste. Et voilà.
L'an 0 et J plus 3 de la marche mondiale des femmes.
Oui, parce qu'on se disait justement que franchement, enfin bon, on vous en reparlera, mais on va faire des commentaires salé, mécontent, colère sur les répercussions de cette
La
marche.
non-marche non mondiale.
Oui, la non-marche, oui, c'est ça. C'est, en fait, quand on a écrit l'article dans le journal actuel, la Maison des femmes, que nous avons dit marche de dupe, point d'interrogation, eh bien, oui, parfaitement, nous avons vraiment la nette impression d'avoir été dupés à tous les niveaux. Notamment par les femmes politiques de ce pays, les femmes PS en tout cas.
Et puis, cette Duprey a été reliée avec un ensemble assez impressionnant par les journalistes. Puisque, comme vous avez pu le constater, la couverture médiatique de la marche a été extrêmement, extrêmement faible. Et pour toutes celles qui n'ont pas réussi à voir les quelques entrefilets, eh bien, il y avait la marche mondiale mardi après-midi à New York.
Oui, il fallait le savoir que c'était heureusement qu'on le savait parce que je n'ai vu nulle part, ni dans le journal Le Monde, ni dans les journaux belges. Toi, tu as vu un article dans la Libre Belgique.
Oui, en page 13, en dessous d'un énorme article sur la ménopause, par contre.
Ah ben la ménopause, ça m'intéresse. Justement, j'ai apporté un livre sur la ménopause.
La ménopause. Bon alors.
Vivement la ménopause, les filles.
Oui, ben, j'aime autant dire, c'est pas rigolo, hein, parce que moi, c'est 15 jours que.
J'ai lu quelque part que.
Ben, moi, c'est tous les mois que. Hein, je me dis vivement la ménopause.
J'ai lu quelque part que, en fait, il y avait des répercussions sur le cycle menstruel des femmes au niveau de pour tout, enfin, moins les femmes sont considérées comme des appareils reproducteurs, plus leur cycle en fait s'allonge. Et moi j'ai l'honneur de vous dire que je suis passée à 35 jours et je suis très contente.
Ah oui.
Ah ben ça t'intéresse, moi je suis à 31, ça va.
Donc tu vois, on est bien largement au-dessus des 28. Si on prenait la pilule, on aurait nos règles plus fréquemment que normal, que naturel. Bon, alors, moi, je vous ai amené des dépêches, comme d'habitude. Je vous ai amené, cette fois-ci, mon agenda. Donc, éventuellement, si je suis très, très en forme, Oh oui, alors, je vais être très en forme, je n'avais pas tourné la page. Parce que, donc, la femme dont je devais vous parler mercredi dernier, c'était Maria Gaetana Agnesi, qui est une mathématicienne et humaniste. Mais la femme à l'honneur cette semaine, c'est Sophonisba Anguissola, qui est une artiste peintre. Et qui a un parcours de vie très très intéressant, qui aurait eu tout à fait sa place dans l'exposition À chacun sa grâce à Anvers, qui a une place de choix dans le livre d'une femme sur l'autoportrait au féminin, donc Femme au miroir, dont je vous parlerai et que je vous amènerai un jour, comme ça vous verrez bien les images à la radio.
On pourra les décrire.
Ouais. Et alors, j'ai amené des bouquins, et donc ma chronique littéraire sera plus littéraire que polar cette fois-ci. Je me suis dit, après tout, j'ai amené qu'un seul polar. Et puis, j'ai quelques brèves sur la santé. Voilà. Et alors, j'en profite pour rappeler que Daniel...
Pourquoi Charest.
Charest. J'arrive jamais à lire le nom qu'elle a écrit. Charest. Sera Artemis le 21 octobre.
Samedi soir.
Samedi soir.
Ah, ben je viendrai après le stage d'Irène. Oui, je vous rappelle que le 21 et le 22 octobre, de 10h à 5h du soir, donc 17h, il y aura le stage de légitime défense, donc sur le week-end, organisé 29 rue Blanche, 1060 Bruxelles. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrite, ben, inscrivez-vous. Et je serai là pour faire un petit potage, bref, vous servir une petite collation.
Comment est-ce qu'on peut s'inscrire?
Chez Irène, au numéro d'Irène. Attends, le numéro, je vais le retrouver.
Tantôt. Mais enfin, on vous promet qu'on vous donnera tout ce qu'il faut pour vous inscrire, parce que c'est un super stage. On est deux à l'avoir fait et c'est vraiment bien.
Oui. Voilà. Ben ça y est, j'ai le numéro d'Irène, c'est le 02 216 61 16. Donc vous vous inscrivez et vous demandez les renseignements. Le prix est fixé à 2000 francs pour tout le week-end, ce qui n'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on voit. Rien du tout, je ne dis pas, mais enfin c'est quand même pas cher du tout par rapport à la qualité du stage. Toi tu l'as fait, moi aussi, et on peut vous affirmer que franchement ça vaut la peine. Ce n'est pas de l'argent perdu, au contraire, on se sent bien, on rigole beaucoup, et puis c'est très sérieux aussi en même temps.
On apprend des choses, oui, très intéressantes, utiles, et puis une des dimensions importantes du stage, c'est qu'on rencontre des femmes super. Moi je me suis fait plein de copines à ce stage.
Oui, c'est vrai, il y a une dynamique, une synergie qui est remarquable.
Eh bien, toujours au chapitre de la Maison des Femmes, les filles, le 10 novembre, il y a un bistrot lesbien.
Oui, mais c'est dans quelques semaines.
Ah, il faut préparer et tout.
Oui, d'accord.
Et celui donc... sur la colère, c'est
ouais.
Ça.
Oui.
Lesbienne. T'inquiète, j'ai des projets.
Ah, d'accord, j'allais dire. Ben oui, et justement, Cécile, tu prépares.
Oui, oui.
C'est bien.
Et donc, vous pouvez nous appeler à la radio 02 344 58 55 ou nous écrire 21 rue Marconi. Ça faut le dire.
1190.
Oui, 1190, c'est
Forêt,
c'est ça.
Ou bien nous envoyer un email à ça faut le dire @bost.com.
Oui.
Ah ben oui, c'est vrai. J'ai distribué tous mes petits papiers là, à la marche. Beaucoup de femmes étaient contentes parce qu'il y en a qui venaient de Virton, d'Arlon, je ne sais où, et qui forcément ne peuvent pas nous entendre. Elles étaient ravies.
Donc ça s'écrit. SAPHO avec un P SAPHOLDIRE@BUST.com. On écoute Irène de Neuville qui chante Les putes.
Leur métier, c'est de faire la grue, les 100 pas au coin de la rue, de ravitailler tous les maquereaux qui les détroussent après le boulot. Leur liberté, on la leur vole, elles n'ont pas droit à l'auréole, même si elles ont la main aux fesses d'un cureton en mal de tendresse. Leur jupette vient pas de chez Dior, leur dentelle toute voile dehors, le talent leur colle au guibole, ça leur rapporte pas le pactole. Elles jouent pas les Marlène Dietrich, mais faut pas en faire des potiches, même si les parfums de l'Orient embaument leur sofa, leur divan. Fleur de bitume, fleur de pavot, fleur de nulle part, fleur de tripot, elles ramassent toutes les torgnoles, les veines c'est toujours pour leurs femmes. Ces messieurs fument le cigare, sur leur trottoir, sur leur boulevard, où elles marchantent leurs honoraires, fleur de bordel, fleur de misère. Fleur de bordel, fleur de misère. Celles que l'on montre du doigt sont pas toujours les putes qu'on croit. Il y en a plein dans les ministères qui travaillent la jambe en l'air. La gambette avec élégance esquisse quelques pas de danse pour arrondir les fins de mois. Ça s'appelle comment déjà? Moi les putains que je préfère sont celles qui ont le cul à l'air, qui sont propres de l'intérieur, à qui on voit battre le cœur. Amie amante et confidente, l'âme plus nette et le cœur tendre que toutes les dames patronesses, les chefs de file et les altesses, qui font de notre boule ronde une terre nauséabonde, un toit merde pour les rats, pour les salauds et les malfrats. Messieurs les flics et les gendarmes, retirez d'elles vos pattes sales, vous mélangez tous les gibiers et vous avez le nez bouché. Et vous avez le nez bouché. Leur métier c'est de faire la grue, les 100 pas au coin de la rue. Leur métier c'est de faire la grue, les 100 pas au coin de la rue. Leur métier c'est de faire la grue, les 100 pas au coin de la rue. Leur métier c'est de faire la grue, les 100 pas au coin de la rue.
Élodie.
Eh ben, je vais enchaîner directement avec donc Maria Gaetana Agnesi, qui est donc une Italienne qui a vécu de 1718 à 1799, donc mathématicienne et humaniste. À l'âge de 9 ans, Marie Gaetana, qui connaissait déjà plusieurs langues anciennes et modernes, s'est adressée à un groupe de latinistes hommes pour leur causer du droit des femmes à être éduquées. Cette fille de bonne famille milanaise a grandi dans un contexte d'étudiants et d'intellectuels autour d'elle, et malgré sa timidité, elle n'a jamais douté de la prodigieuse capacité et du potentiel des femmes. À l'âge de 20 ans, elle a publié les propositions philosophiques, donc qui étaient plusieurs essais sur la philosophie et les sciences. Elle a aussi commencé un bouquin qui s'appelait Institutioni Analitici. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, quelque chose du côté de l'analyse. Un travail sur les calculs différentiels et intégrales, comme une espèce de livre d'exercice pour ses frères. Elle a, sa mère est morte assez tôt et elle s'est retrouvée avec 20 enfants et une maison à tenir après la mort de sa mère. Alors, je ne sais pas d'où sortent les 20 enfants, c'était peut-être des mariages précédents. Donc c'est ce livre a systématisé pour la première fois l'idée d'écrire en mathématiques dans plusieurs langages, et donc ça a aussi bien introduit de nouvelles méthodes qui donc ont été développées par cette femme. Elle est devenue célèbre à partir de son travail sur Versiera. Apparemment c'est un signe curve. Je suis nulle en mathématiques, enfin pas spécialement nulle, mais là vraiment je ne sais absolument pas de quoi je vous parle. Et donc elle a été proposée comme professeure de maths à Bologne, mais elle a choisi de se consacrer aux pauvres et aux malades, et particulièrement aux femmes. Et donc, je passe directement à une autre italienne, donc Sofonisba Anguissola. Je vais quand même vous parler un petit peu de la tête de Maria Gaetano. Donc là, elle est, c'est un dessin de 1836, donc elle a 18 ans là-dessus. Bon, c'est une gravure en noir et blanc et ma foi, elle a un port de tête bien assuré, le regard fixé au loin et on sent qu'il y a du projet dans cette tête. Et, ouais, plutôt déterminée, la
18
copine.
Ans, on dit.
Oui, mais enfin, c'est une gravure aussi, hein, donc forcément... Alors, je passe donc à Sofonisba. J'imagine que c'est un autoportrait, parce que en fait, c'est une femme qui a commencé à peindre très très tôt. Autoportrait, plutôt penché vers la droite, mais le regard vers la gauche. Hein, rien de malice quand même. Pour l'époque, c'est assez osé, puisque jusqu'à une époque très très récente, les femmes ne souriaient pas et ne montraient surtout pas leurs dents sur les photos, puisque c'était réservé aux photos pornographiques et aux filles de mauvaise vie. Donc, cette Italienne a vécu de 1635 à 1625.
De 1635 à 1625
Oups, oui, 90 ans.
Attends, non, il y a un stut. 1535 à 1625, alors.
J'ai dit quoi?
1635 à 1625.
Pardon, c'était l'inverse. Non, j'avais pas entendu. Même quand tu me l'as répété, j'ai pas entendu. Donc c'est la première artiste connue internationalement. Elle est née à Crémone, chez des parents nobles, et elle a été éduquée avec six sœurs et un frère, donc dans un idéal humaniste. Et elle a appris avec ses deux sœurs aînées à peindre chez Bernardino Campi, que je ne connais pas, mais qui devait être un maître à l'époque. Donc c'était assez inhabituel. Son style était assez inhabituel, mais elle a assez vite commencé à faire des autoportraits et des tableaux représentant des scènes d'intimité. Et c'est vrai que il y a un autoportrait d'elle jeune où elle est presque en train d'éclater de rire, et on sent là toute sa jeunesse, puisque comme je vous le disais, c'est vraiment une pose qu'on n'imagine absolument pas pour une femme âgée, enfin âgée, une femme de plus de 15 ans, quoi.
Ah, mais mon micro.
Ah oui, non, mais à l'époque, je veux dire, quand t'as
tanné,
à l'époque, quand t'as tanné 15 ans, t'étais déjà moitié majeure. Hein.
Oula. T'étais déjà vieille.
Alors, donc, jusqu'au moment où les femmes ont été empêchées de peindre dans des. Enfin. De façon à être connue, donc elle n'avait pas le droit vraiment d'être spécialement célèbre. Mais pour elle, à partir de 1559, elle a été apprendre à peindre dans la cour de Philippe II en Espagne et d'Isabelle de Valois. Et en fait, elle a un peu séduit tout le monde là-bas. Et elle est devenue la peintre de la cour. Et en fait, il y a aussi un autoportrait d'elle assez âgée. Elle doit avoir 80 ans dessus. Et elle tient dans sa main un papier où elle dit sa reconnaissance au roi. Et c'est vrai que, comme pour Elisabeth Jacquet de la guerre, quand les femmes avaient au moins la protection du roi, parce qu'il leur fallait bien ça, tout d'un coup, les commandes, exercer plus ou moins librement son métier, devenait tout d'un coup plus facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Sofonisba Anguissola.
Ça s'écrit comment?
Alors, Sofonisba, S-O-F-O-N-I-S-B-A, et Anguissola, A-N-G-U-I-2-S-O-L-A.
Merci.
Mais de rien.
Bah écoute, on va rester dans les femmes italiennes. On va écouter les femmes de la plaine du Pô qui chantent Loi bella va in giardino.
Loi bella va in giardino e la si addormentò. Lui ballava in giardino e la si addormentò. Lui ballava in giardino e la si addormentò. Lui ballava in giardino e la si addormentò. Traverso il suo giardino passa di un cavaliere. Traverso il suo giardino passato un cavalier. Traverso il suo giardino passato un cavalier. Traverso il suo giardino passato un cavalier. La despica una rosa, poi gliela messi in sé. La despica una rosa, poi gliela messi in sé. La despica una rosa e gliela messa in sé. La despica una rosa e gliela messa in sé. La rosa l'era fresca, lui bella si svegliò. La rosa l'era fresca, lei bella si svegliò. La rosa l'era fresca, lei bella si svegliò. La rosa l'era fresca, lei bella si svegliò. S'assindo un cavaliere com'è la casichì. 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 Mi son venuto massa. Mi son venuto a Roma per dir chi io massa. Mi son venuto a Roma per dir chi io massa. Mi son venuto a Roma per dir chi io massa. E quel che i massa com'ere lo vestì. E quel che i massato com'ere lo vestì. E quel che i massato com'ere lo vestì. E quel che i massato com'ere lo vestì. L'era vestì di rosso col cappellin turchin. L'era vestì di rosso col cappellin turchin. L'era vestì di rosso col cappellin turchin. L'era vestì di rosso. S'assindo un cavaliere, quel è mio primo amor. S'assindo un cavaliere, quel è mio primo amor. S'assindo un cavaliere, quel è mio primo amor. S'assindo un cavaliere. Ma non sta pianger bella che il primo amor son mi. Ma non sta pianger bella che il primo amor son mi. Ma non sta pianger bella che il primo amor son mi. Ma non sta pianger bella
extrait d'un disque qui s'appelle Femme de la plaine du Pô, chant de la ferme et de la rizière. Vous aviez bien entendu que c'était un chant de rizière.
Oui, on entendait tomber les gris. Effectivement.
Téléphonez-nous au 02 344 58 55 et je vous signale, avant de donner la parole à mes coéquipières, qu'à partir de 21h, on parlera de la marche des femmes et on vous diffusera quelques interviews prises sur le vif.
D'accord. J'ai un livre ici qui va peut-être, qui doit nous intéresser toutes, même celles qui n'ont pas encore 50 ans. Même les jeunes devraient le savoir, parce que c'est un livre intéressant qui est bien écrit et bien renseigné par Rina Nissim, qui était d'ailleurs à la marche et qui est venue au Bistrot Lesbien vendredi soir.
Je ne l'ai pas vue, c'est vrai, elle était là?
Oui. Elle était au début, elle n'est pas restée pour le repas. Et...
Ah, c'est ça. Alors,
oui, elle est partie vers 8h30. Alors bon, eh bien, Nina, elle avait un chapeau et des lunettes. Tu n'as pas vu une femme, une petite comme
non,
ça?
Non, je l'avais vu chez Artemis l'an dernier, mais zut, je l'ai ratée.
Eh bien, Nina Nissim est naturopathe.
Rina Nissim.
Rina Nissim, pardon, je suis fatiguée là. Est naturopathe depuis 15 ans, une quinzaine d'années au moins. Et elle a énormément travaillé sur la santé des femmes. Et elle est connue pour son fameux livre, qui est un best-seller d'ailleurs, Mama Mélis, qu'elle a écrit aussi, et qui nous livre des grandes et des petites réponses sur toutes les étapes de la vie d'une femme, aussi bien une jeune fille qui commence ses règles, ou même avant, que vers 30 ans, 40 ans, 50 ans, et tout le reste. Et sur le passage de la ménopause, en fait, la ménopause est un passage comme un autre, bien qu'on nous bassine les oreilles en nous disant et en traitant la ménopause presque comme une maladie, alors que la ménopause est simplement un autre état physique de la femme. Eh bien, il faut surtout faire très attention à tous les marchands du temple et de médicaments surtout, et les médecins qui relaient ces messages de ces marchands de médicaments, parce que ces médicaments ne sont pas, sont des médicaments, hein, donc il ne faut pas les prendre n'importe comment. Ils peuvent faire des dégâts ailleurs, notamment au niveau du foie, des reins, etc. Et il faut surtout aussi ne pas se mettre dans la tête que la ménopause est une maladie. En fait, les symptômes de la ménopause ne sont pas très connus depuis longtemps, parce qu'il faut dire que, comme elle le dit d'ailleurs dans son livre qui s'intitule « Réflexions et alternatives aux hormones de remplacement à propos de la ménopause », elle dit très bien qu'il ne faut quand même pas oublier que pendant de nombreux siècles, la fin de la vie d'une femme survenait bien souvent avant la ménopause. Hein, à 40 ans, 45 ans, c'était déjà un miracle de vivre aussi âgée. Et évidemment, elle n'atteignait rarement les 50 ou 60 ans, c'est-à-dire l'âge de la ménopause. On ne savait même pas ce que c'était jusqu'au début du siècle. Alors, au fur et à mesure qu'il y a eu une amélioration de la santé, une prolongation de la vie des femmes, eh bien, finalement, on commence seulement à savoir ce que c'est que la ménopause. Et c'est pour ça que les nombreux médecins qui étaient les gynécologues jusque dans les années 70, il faut le dire, en majorité, des hommes, eh bien, ils ont bâclé les trois quarts du temps, et ils bâclent encore d'ailleurs la ménopause, sauf que quand ça devient intéressant pour eux, c'est-à-dire les grosses opérations, les médicaments, le suivi au niveau des hormones, etc., alors évidemment là, ça a été un attrape-nigaud. Il faut bien donc faire attention au langage courant et au langage médical qui en fait une maladie. Parce qu'on ne la connaît pas depuis très longtemps, et c'est vrai qu'il a fallu attendre des femmes comme Rina Nissim ou d'autres d'ailleurs encore, pour détailler cette période, parce qu'elles l'ont vécue, parce qu'elles ont suivi cette étape chez d'autres femmes, en tant que naturopathe, en tant que psychologue, psychiatre, etc. Et c'est en fait seulement maintenant qu'on commence à mieux connaître ce passage. Je ne parle plus de phénomène, je parle maintenant de passage. Un passage comme un autre, comme il y en a des tas dans notre vie et dans notre corps de femme. Ce passage, il peut très bien se passer, effectivement, il peut avoir lieu de manière très tout à fait satisfaisante, sans aucune alarme particulière, mais chez d'autres femmes, ça peut être plus douloureux dans le sens où l'irrégularité des règles pose évidemment des problèmes quant à la, notamment, contraception. Et puis, pour les bouffées de chaleur, le malaise, les malaises, etc., concernant les périodes entre qu'on appelle la périménopause, donc qui ne sont pas encore liées à la ménopause elle-même. La ménopause, c'est en fait la fin des règles. Hein. C'est à ce moment-là que commence la ménopause. C'est quand on n'a plus du tout de règles. Mais il faut attendre au moins une période de 6 mois à 1 an pour se dire qu'on est ménopausé. Si vous n'êtes pas réglé pendant 3 mois ou 4 mois, ça ne veut rien dire parce que vous pouvez reprendre les règles tout d'un coup sans que ça crie gare, comme dirait l'autre. Et puis vous pouvez avoir des hémorragies qui durent 15 jours, 3 semaines facilement. Donc c'est très, très, très lourd à vivre aussi quand même dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne sait jamais quand ça va reprendre et quand ça va s'arrêter. Ça peut arriver en plein milieu d'une conférence, en plein milieu d'un cours, ou n'importe quand, donc ça peut être gênant. Il y a d'autres traces de la ménopause, de la périménopause, dont je vous parlerai après. On peut prendre en fait cet âge de la ménopause comme une occasion de prendre conscience avec sagesse et avec un nouveau sens de la liberté, de l'épanouissement de son corps, de la créativité, un nouveau pouvoir qui découle donc du sentiment d'avoir franchi des limites et d'avoir trouvé une autre place dans la vie. C'est vrai que ça peut être vécu de manière très sage et très relaxante, il ne faut pas s'affoler avec les rides, avec tous les phénomènes qui accompagnent le vieillissement, qui est aussi un mot évidemment plein de tabous, puisque un homme de 50 ans avec des tempes grises, on dit qu'il a du charme, et une femme de 50 ans qui a les cheveux gris, on la traite déjà de vieille sorcière.
On dit aussi qu'elle a du charme.
Oui, mais enfin, maintenant, de plus en plus, oui, de plus en plus, c'est vrai. Mais enfin, il faut dire que en général, ce n'est pas le plus courant de l'appellation. Hein. Bref.
Ça dépend de quel point de vue on se place.
Ça, c'est vrai, bien sûr.
Et tu es belle avec tes tempes grises. Ah,
ça y est.
Très, très séduisante.
Non, j'ai horreur du terme séduisant, tu vois. Ça, j'ai déjà.
Plus
ça,
je l'aime déjà.
Ça, oui, ça, c'est déjà mieux.
Charmante.
Bon, c'est en train de se foutre de moi, là. Alors, Cécile est rouge.
Elle est adorable avec les pommettes rouges, elle est splendide.
Non, maintenant, elle parle de ses
salis. Pas du tout, de toi.
Ah, de moi ?
Bien sûr.
J'ai des pommettes rouges depuis
absolument.
Quand ?
Absolument. Ben, je dirais quelques secondes.
Je confirme. Bon, allez, on passe un peu de la musique. Elles exagèrent, là, ces deux jeunes.
On va écouter une blueuse, une des grandes blueuses contemporaines qui s'appelle Rory Block, une américaine, bien sûr. Qui ne chante. Donc, elle ne fait pas que chanter, c'est une excellente guitariste aussi. Et donc, ici, c'est un morceau qui s'appelle Joliet Bound.
Solid, yeah. Some got 6 months, some got 1 solid year. Now me and my buddy got a lifetime here. Well,
Cherokee wrote it down. Lawyer pleaded, Cherokee wrote it down. Pass your sentence, must be Joliet bound. Well, you can cook my supper, let me go to bed. Cook my supper now, let me go to bed. I've been drinking white light now, has gone to my head. You gon' quit me, baby, it's the first thing I wanna do. Quit me, baby, it's the first thing that you wanna do. Someday you gon' want me, babe, I won't want you. Well, holy shoot the gun, ain't all in my sight. Holy shoot the gun, ain't all in my sight. If you run from me, must be bound to die. When I had my trial, you could not be found. Now I done got all messed up, and I'm Joliet bound.
Yes.
Eh bien, je vais vous parler après les mères d'Argentine, les grand-mères d'Argentine qui sont passées à la téloche et les femmes en noir qui étaient très présentes dans la marche. Je vais vous parler des mères de Tiananmen, puisque donc les mères de Tiananmen se sont prononcées pour la traduction en justice du numéro 2 chinois, donc Li Peng. Vu qu'aux États-Unis, il y a une instruction sur son rôle pendant la répression du printemps de Pékin en 1989, elles sont 110 à une fois de plus s'être regroupées sous ce nom de mère de. Donc il y a quand même
une tradition qui s'installe.
Et il faut quand même rappeler que ce massacre, c'est un véritable massacre, avait coûté la vie à des centaines, peut-être à des milliers de manifestants pacifiques en juin 89. Ils avaient carrément balancé les chars et tout. Alors bien sûr, les autorités chinoises ont dit que c'était une farce politique concoctée par une poignée d'éléments anti-chinois aux États-Unis, mais reste qu'il y a quand même des gens qui sont morts. Alors ensuite, Koblenz, puisque en Allemagne, les officiers vont apprendre à résister au charme féminin. Donc c'est des séminaires spéciaux pour leur apprendre à ne pas succomber au charme des femmes qui feront leurs entrées dans les unités de combat au début 2001, puisque l'armée allemande essaye de prévenir au lieu de guérir et donc d'aborder tout de suite les problèmes de harcèlement sexuel et autres risques.
Pour limiter les viols.
Et puisque cette institution a eu le courage de reconnaître que les femmes allaient être présentes dans des services où elles étaient jusque-là totalement absentes et donc qui allaient avoir des problèmes d'adaptation. Et alors c'est marrant, ça finit parce que l'armée demande, va recommander aux personnes concernées par des idylles au sein de l'armée d'éviter de perturber le service ou de faire des envieux chez leurs camarades. Ensuite, on va repartir en Yougoslavie. Et puis un petit coucou aux femmes en noir de Belgrade qui étaient là samedi. On va parler de Flora Abrovina. C'est donc une activiste albanaise pour les droits de l'homme qui a été déjà condamnée à 12 ans de prison.
Pour quel droit dit
de la personne humaine, qui a été condamnée à 12 ans de prison pour terrorisme. Et donc, il y avait un autre procès qui devait débuter pour elle. Mais il faut dire que la présidente de la Chambre pénale est Madame Marina Milanovic, qui est une partisane fervente de Milosevic et qui, bizarrement, a un peu disparu ces derniers temps, puisque Flora Brovina a été accusée d'avoir aidé la guérilla séparatiste. Donc on espère que les nouvelles autorités vont procéder à un rejugement de Madame Brovina et puis la quitter et casser la procédure pour cet autre procès. Plus près de chez nous, à Paris, on a enregistré 23 071 pactes civils de solidarité, donc ce fameux PAX, entre le 16 novembre 99 et le 30 septembre 2000.
Combien, t'as dit, je ne sais pas.
Un peu plus de 23 071.
Pas mal, hein.
C'est incroyable.
Oui. En fait, si on regarde par tranche... Oui, donc en fait, ça fait 46 000 personnes paxées, puisque forcément, il y en a deux. Et donc, oui, en fait, si on regarde par tranche, puisqu'il y a, il y a eu un boom au départ, donc entre le 16 novembre, date de la promulgation, et le 31 décembre 99, il y a eu un peu plus de 6 000 paxes conclus, et seulement, quand même 4 000 entre le 1er juillet et le 30 septembre 2000. Puisque selon le porte-parole du ministère, certains se battaient pour ça depuis 10 ans et il y avait une grande liste d'attente. Alors en fait, il y a évidemment une répartition géographique intéressante, puisqu'il y a plus de 70% des contrats. Alors c'est des appréciations, il n'y a pas vraiment de statistiques, puisqu'on essaye au maximum d'éviter les discriminations. Et il y a quand même 70% des contrats PAX sur la région parisienne qui sont des contrats qui lient des homosexuels, mais sur la province, c'est plutôt 50-50. Voilà, avec bien sûr.
Et parmi les homosexuels, on a des chiffres hommes-femmes ?
Non,
bien sûr.
Je crois qu'ils hésitent à faire des statistiques là-dessus.
Bah oui. C'est comme pour les élections communales, hein. On n'est toujours pas au courant de ce que les femmes ont fait comme score, alors que les listes ont présenté pas mal de femmes. Enfin, en tout cas, les écolos et les PS. On est encore loin du compte de savoir ce qu'il y a eu comme changement, si je puis dire.
En Flandre, j'ai lu que, si je me souviens bien, il y a un tiers d'élus.
Un tiers.
Ouais. En Flandre. Hein. Ouais. C'est ça. Assez vite, dans le Morgen, je crois, 2 ou 3 jours après.
Oui, ben chez nous, rien du tout dans la presse francophone. J'ai regardé, il n'y a rien du tout. Rien. Mais bon, je continue ma petite... mon rite de passage là, donc, hein, sur la ménopause, comme je dis bien souvent. Je voudrais bien faire dire quelque chose. C'est qu'il y a un mythe qui court concernant la ménopause, c'est que quand on est ménopausé, terminé, on peut tout ranger.
On doit acheter des tubes de lubrifiant.
Oui, et puis on doit aussi se dire que bon, c'est terminé, faire l'amour, rester au lit, etc., pendant des heures, des jours, etc., etc. Terminé, eh bien non, c'est vraiment faux. C'est un mythe qui doit se... Hein, pour tuer les mythes, ben, y a des anti-mythes.
Serait-ce un mythe créé par certaines femmes hétérosexuelles qui profiteraient là d'une occasion qui leur est donnée d'échapper à leur devoir conjugal?
Ah oui, c'est possible.
Genre, de toute façon, ça ne peut rien, le devoir conjugal, si elle ne peut plus faire l'enfant.
Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas d'où ça vient.
Je ne suis pas sûre, mais bon.
Je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, donc, c'est un mythe qui a couru et qui court encore. La fin des règles ne signifie pas la fin de la sexualité. Rien n'est plus faux. Au contraire, la sexualité peut être beaucoup plus libérée pour les femmes hétéros de la crainte de la grossesse, ça, évidemment. Et la libido est de toute façon toujours là, bien présente. Et c'est très bon d'ailleurs de garder cette activité très saine régulièrement.
Bonne pour le moral.
Oui, c'est très bon pour le moral, mais c'est aussi...
Réchauffe en hiver.
Oui, mais pas que ça. Figure-toi que l'orgasme fait aussi passer des douleurs, par exemple, des règles. Ça, je dis ça pour les femmes réglées qui ont mal au ventre. Et aussi, elle maintient la muqueuse
vaginale. Si, chérie, ce soir, j'ai mal au ventre.
Donc, elle maintient la muqueuse vaginale et tout le petit bassin bien irrigué et palpitant de désir. Donc, le désir...
Palpite.
Le désir dépend bien plus de la nature de la relation que des circonstances que de l'âge. Alors, ne vous en faites pas, la ménopause, c'est pas la fin du monde, ni la fin de votre vie. Au contraire, c'est une autre vie, un passage de nouveau, qui commence autrement. Et il suffit donc de la vivre en s'adaptant progressivement et en donnant une autre vision des choses, une transformation de l'existence par rapport à tout ce qu'il y a. Évidemment, il y a des symptômes qui ne sont pas très agréables dans les constats. Et je voudrais en parler de quelques-uns, notamment un qui est particulièrement, enfin moi qui m'a aussi un petit peu, disons, troublée, c'est le fait qu'il y a une disparition progressive des poils pubiens. Alors moi je trouve ça adorable, j'adore ça. Tu me regardes avec des grands yeux.
Quoi, la disparition ou les poils ?
Les poils.
Ah oui, d'accord.
Pas le pubis, hein.
Pas la disparition des poils.
Quoi ?
Oui, c'était ambigu la façon dont tu l'as dit.
C'est ce que tu disais, oui. On croyait que tu trouvais ça adorable, la disparition des poils.
Ah non, j'aime pas.
Vive le poil.
Justement, je trouve
le
ça...
Le poil,
mais non,
avec
c'est...
lui.
C'est, je trouve que la toison chez les femmes, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Mais enfin, bon, il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que, bon, on a des petits rétrécissements par-ci, par-là, des grandes lèvres, des petites, etc. Mais enfin, ça n'empêche pas du tout, en tout cas, au niveau clitoridien, de continuer à ressentir, et même vaginal, de ressentir donc, des plaisirs dans tous les sens du terme, aussi bien qu'auparavant. Donc, il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas vivre ça avec angoisse et il ne faut surtout pas s'angoisser sur le sujet.
Oui, en fait, c'est un changement hormonal, mais ce n'est pas un changement des nerfs, puisqu'en fait, c'est les terminaisons nerveuses qui relaient le plaisir.
Voilà, exactement. Tu as tout compris.
Quel plaisir.
Voilà. Mais est-ce qu'il faut acheter des tubes de lubrifiant ou non ?
Non, pas nécessairement. Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais en principe, non. Voilà. Alors, il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane et faire de l'exercice régulièrement. J'ai lu qu'il fallait faire au moins 3 heures d'exercice par semaine, c'est-à-dire au moins 1 heure tous les deux jours. Donc ça, c'est très important pour le squelette parce que les muscles, évidemment, entretiennent l'état du squelette. Le squelette, c'est vivant. Il ne faut pas oublier que
c'est lié au vieillissement, de toute façon.
C'est quoi ?
Quoi ?
L'entretien du squelette et des muscles.
Oui, mais c'est pour l'ostéoporose. Nous, on est protégés, c'est toujours la même chose. On est protégés par nos œstrogènes. Et dès qu'on n'a plus d'œstrogènes, on a des problèmes.
Voilà. Les œstrogènes, à moi.
Donc, il faut justement...
C'est bon de faire de l'exercice, mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, il faut en faire avant. C'est-à-dire que c'est bon d'arriver à la ménopause avec la masse osseuse la plus importante possible. Parce que, comme ça, si on perd un petit peu, c'est pas trop grave. Tandis que si on a déjà une masse un petit peu faiblarde, si on perd un petit peu, les problèmes commencent. Donc, faites de l'exercice. Pas trop violent, parce qu'il ne faut pas se blesser.
Voilà.
Mais suffisant et régulièrement.
Voilà, ne fût-ce que marcher, hein, une demi-heure tous les jours, la marche, c'est largement suffisant. Ou un peu de vélo.
Au moins 3 quarts d'heure de marche. Parce que les effets optimums sont obtenus à partir de 3 quarts d'heure. Une demi-heure, ça ne suffit pas.
Mm. Ah bon, eh bien, 3 quarts d'heure de marche par
jour. Une demi-heure de vélo, c'est bon.
Une demi-heure de vélo. De toute façon, de l'exercice et pas rester et
bon
trop enfermé. Parce qu'il y a aussi une
pas
question...
Pas trop fumer.
Non, pas du tout fumer. Pas fumer, pas boire de café, en tout cas pas trop. Et bien équilibrer l'acidité avec tout ce qui est acidité et acide et basique. En fait, il y a des aliments générateurs d'acide, comme évidemment le café, le thé noir surtout, pas le thé vert. Le thé vert, au contraire, c'est excellent. Les céréales raffinées, donc riz blanc, etc., farine blanche, pain blanc, les arachides, les petits haricots, les pois secs, les lentilles, toutes les graisses et les huiles, les fromages et le blanc d'œuf sont générateurs d'acide, tandis que ce qui est générateur de base, ce sont tous les fruits doux. ou acidulés, frais ou séchés, en particulier donc tout ce qui est citrus, c'est-à-dire citron, orange, pamplemousse. Tous les légumes frais sont bons, les noix du Pérou, les amandes, le lait sous toutes ses formes sauf le fromage, et le jaune d'œuf. La farine complète également aussi. Donc en fait c'est une question d'alimentation équilibrée, beaucoup de légumes et de fruits frais, et diminuer donc tout ce qui est cigarette, café,
etc. Supprimer la cigarette, t'as dit.
Supprimer, hein. Oui, bien sûr.
Bon, même avec des choses dedans.
Voilà, alors je vous parlerai après de quelques plantes qui sont excellentes. Même à prendre comme ça.
Mais voilà, tu vois, les plantes sont excellentes. C'est pas sérieux les filles aujourd'hui, hein. On va écouter Anne Sylvestre, hein, parce que bon... elle nous chante un bonheur incompréhensible.
Oui, c'est une chanson très douce que j'aime beaucoup.
Pendant des années, j'ai senti, en m'en retournant sur Paris, juste après le péage, comme une odeur de bois coupé, un parfum de sève échappée, familière et sauvage. Je la guettais fugitive de ma voiture captive, mes narines frémissaient tandis que m'envahissait un bonheur incompréhensible, comme un souvenir impossible d'une autre vie, comme un regret ou la prescience d'un après, où ça sentirait la résine, la planche qu'on a rabotée, la fougère et le noisetier, moi qui suis pourtant citadine, et même si j'ai tout mon temps, je sais qu'une forêt m'attend. On peut croire qu'on a rêvé, dire qu'il n'est rien arrivé, on s'est fait des idées. Une odeur si bien appréciée, et pourquoi cette odeur ici, sur la route bondée? Je n'ai jamais eu l'audace de rechercher cette place, craignant de ne rien trouver qui puisse justifier ce bonheur incompréhensible, comme un sourire irrépressible, ou comme l'ineffable joie qu'on éprouve à rentrer chez soi, où le feu brûlerait dans l'âtre, où l'on n'aurait qu'à se poser, dans un fauteuil se reposer, où l'on n'aurait plus à se battre. Et même si j'ai tout mon temps, je sais qu'une maison m'attend. Je suis restée longtemps sans faire la route, et pourtant la semaine dernière je m'en retournais sur Paris, et j'avais assis de petit sur la banquette arrière. Il regardait des images, puis juste après le péage, on soudain levé le front et déclarer, ça sent bon, c'est sans doute incompréhensible, je dois avoir le cœur sensible, mais j'en ai eu les larmes aux yeux, je n'avais pas rêvé ce lieu, il existait, il est à prendre, il suffit de suivre l'odeur, un jour que je n'aurai pas peur, je ne pourrai pas me méprendre, et même si j'ai tout mon temps, peut-être qu'un bonheur m'attend. Un jour que je n'aurai pas peur, je ne pourrai pas me méprendre, et même si j'ai tout mon temps, peut-être qu'un bonheur m'attend.
C'était Anne Sylvestre. Bon, alors je vais entamer ma chronique littéraire. Alors, pour casser le suspense, je commence tout de suite par le polar. Oups, qui m'a échappé des mains, il est encore vivant. J'ai sélectionné Janet Ivanovic. Déjà deux opus parus, le premier La Prime et le deuxième Deux fois n'est pas coutume, qui met en scène Stéphanie Plum, qui, à cause du chômage, est devenue chasseuse de primes. Et donc, son truc, c'est qu'il y a des détenus qui ont été libérés et qui oublient de se représenter à la prison, tout ça. Et donc, en fait, elle les cherche. Dans le premier opus, elle doit ramener un policier qui n'est rien d'autre qu'un ancien copain à elle et avec qui elle avait d'ailleurs un compte à régler. Et le deuxième, c'est quand même un boxeur qui est un peu frappé. Et donc, il lui arrive des trucs assez rigolos parce que elle a certains réflexes féministes, mais bon, elle n'est pas non plus une chasseuse de primes tout à fait professionnelle puisqu'elle est, elle est devenue depuis pas longtemps quand le bouquin commence. Et donc, il y a des passages assez rigolos et c'est, ma foi, assez bien enlevé. Et puis, aux surprises, je vous avais amené un deuxième polar, je n'avais pas vu. C'est donc Linda Davis. Stéphanie Plum, non pardon, Janet Ivanovic, c'est chez Pocket. Et Linda Davis, c'est la collection avec la petite panthère du livre de poche. Et donc, ça s'appelle L'Initié. Alors, c'est un tout autre contexte puisque les aventures de Stéphanie Plum se passent aux États-Unis. Linda Davis, ça se passe à Londres. Et en fait, on va rentrer dans le milieu des Golden Girls, puisqu'en fait, c'est une femme qui est professionnelle des marchés monétaires, de la finance, ce genre de choses. Et en fait, le gouverneur de la Banque d'Angleterre lui demande de se faire engager dans une grande banque afin de faire la lumière sur des malversations et problèmes de délits d'initiés. Alors, il faut aimer hein, le contexte bancaire, machin. Mais c'est assez aussi intéressant sur ce qui s'y passe. Alors, j'ai ramené un livre dont je vous avais parlé cet été, mais je me suis dit qu'après tout, vous n'étiez peut-être pas là, et donc je vous en reparle. Donc, Marie de Gournay, Le grief des femmes suivi de Égalité des hommes et des femmes. Puisque Marie de Gournay a écrit Le grief des dames en 1626 et L'égalité des hommes et des femmes en 1622. Donc autant vous dire que c'est des textes qui nous viennent de loin. Et dans la série Les femmes ont une histoire, je le prouve. Et donc, alors c'est très drôle, Quelque part, on se dit qu'on a peut-être quand même progressé sur certains côtés, mais elle ouvre le texte du grief des dames en disant « Bienheureux es-tu, lecteur, si tu n'es pas de ce sexe qu'on interdit et de tous les biens en le privant de la liberté. » Donc, un texte assez rafraîchissant et qui donne aussi du souffle pour continuer et pour nous-mêmes aussi nous inscrire dans l'histoire, que d'autres trouvent notre trace et se sentent moins seuls plus tard.
Et n'oublie pas de dire où ce que tu l'as trouvé et chez qui c'est publié.
Alors, c'est chez Les Mille et Une Nuits. C'est autant les autres, s'il y a 300 quelques pages dans le polar. Là, la collection des Mille et Une Nuits, c'est une toute petite collection. Et il y a 40 pages, donc il n'y a pas de quoi
s'effrayer.
S'effrayer pour les, si on n'a pas trop l'habitude de lire. Ensuite, alors c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est la collection Rivage de poche, Bibliothèque étrangère, qui est une très très jolie collection avec plein, souvent, des auteurs très très intéressants. La première, c'est aussi une star dans le monde anglo-saxon, c'est Alison Lurie. Donc Lurie, L-U-R-I-E, et donc Rivage poche, Bibliothèque étrangère. Qui a écrit plusieurs choses, notamment Une liaison étrangère, Comme des enfants, ou Des gens comme les autres que j'ai un peu moins aimé. C'est une description assez fine, c'est pas forcément psychologisant, mais ça explique quand même ce qui se passe dans la tête des gens, et c'est aussi, il y a pas mal d'humour, et une grande tendresse pour les personnages, ce qui fait que nous aussi on a une tendresse pour ces personnages. C'est vraiment très très bien écrit et on se laisse guider au fil des pages. Donc là aussi c'est pas un texte trop important, 200 pages. Ça se lit bien, ça se lit vraiment très très bien. Et le deuxième, Femme d'affaires, les deux au pluriel, de Rebecca West, toujours chez Rivage Poche Bibliothèque étrangère. Alors en fait, là, il y a deux textes d'une centaine de pages chacun. Deux portraits de femmes dans les années 30 aux États-Unis, entre mariage traditionnel et réussite personnelle. Désir d'argent et de pouvoir font courir ces femmes qui bâtissent des empires. Rebecca West montre avec virtuosité comment les fortunes américaines se sont faites avant la crise de 1929 et le réalisme de ce nouveau monde. Mais sa sensibilité et son sens critique font que la réussite de ces femmes d'affaires n'est pas sans faille et le bonheur. Donc oui, effectivement, là aussi c'est des tranches de vie avec des femmes qui font des choix. Et le deuxième est très intéressant puisqu'on nous présente la réalité d'une certaine façon et qu'ensuite on a un autre angle de vue de cette même réalité. C'est très très intéressant à partir de deux femmes qui se parlent et qui se rencontrent. C'est aussi plutôt sympa à lire. Rebecca West, c'est un pseudo, je ne sais plus exactement qui se cache derrière. Cécile Isabelle Fairfield. Donc elle a vécu de 1892 à 1983. Et toujours dans la collection, enfin les éditions Rivage Poche, et là c'est la collection Petite Bibliothèque. Philosophie de l'amour par Georg Simmel. Alors en fait, c'est des textes très très anciens, puisque le monsieur a vécu, il a plutôt vécu au début de ce siècle. J'ai du mal à vous trouver exactement la date, mais enfin, par exemple, quelques réflexions sur la prostitution dans le présent et dans l'avenir est un texte qui date de 1892. Il y a énormément de choses très très d'actualité, notamment sur la possession collective du corps des femmes, sur qu'est-ce que ça veut dire la fidélité pour les hommes imposée aux femmes. C'est des textes qui sont vraiment d'une actualité étonnante, épatante, et on se dit que bien dommage que cet homme n'ait pas été plus lu à son époque, ça nous aurait peut-être épargné beaucoup de choses. Il parle, oui, de la jalousie aussi. C'est plein de petits textes, donc, parce que bon, il y a 260 pages, mais c'est des textes qui font une cinquantaine de pages chacun et donc qui sont aussi très abordables. Et vraiment, ces textes, ils sont écrits au tournant du siècle dernier, qui sont encore et toujours valables pour aujourd'hui. C'est très très impressionnant et oui, vraiment une façon écrit par un homme au siècle dernier, ça rend vraiment ce texte très 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 précieux. Et puis je vais finir par de la littérature autochtone, puisque Yves Le Manac a vu ses artichauts de Bruxelles publiés par les éditions à couteau tiré. Donc Yves Le Manac est quelqu'un qui a fait partie des situationnistes à l'époque. Donc c'est un mouvement qui s'intéresse énormément, notamment au spectacle, à comment les choses sont mises en scène pour qu'on les gobe. Par exemple, tout ce qui la campagne américaine en Somalie, ils auraient adoré disséquer ça. C'est aussi le même courant, Raoul Vonnegut, qui a écrit De la misère sexuelle en milieu étudiant et tout genre de choses. Oui, ils disent l'idée centrale des situationnistes était la construction concrète d'ambiances momentanées de la vie et leur transformation en une qualité passionnelle supérieure. Pour eux, la dérive était la pratique d'un dépaysement sensoriel par un changement hâtif d'ambiances variées. Ils voulaient construire des impressions capables de déterminer la qualité d'un mouvement. Donc les artichauts, en fait, c'est un... Parce qu'il est breton à la base, donc il a fait un mélange entre les artichauts de Bretagne et les choux de Bruxelles. Et c'est des textes encore plus courts, puisque lui-même les édite sur des feuillets A4 pliés en 4. Donc ça fait un petit texte de 8 pages, et c'est très très intéressant. des choses du réel. C'est quelqu'un qui est au chômage et qui a vécu, qui a travaillé en usine et qui a quand même deux, trois réflexions bien senties sur ce qu'on nous fait vivre sous prétexte de gagner notre vie.
Oui, enfin, on gagne notre vie à la perdre. Hein.
La brave dame.
Hein? Bon, ben, je vais vous passer quelque chose de beaucoup plus léger là-dessus. On va écouter Kedi Lang, ça fait un moment. Qui nous chante Sexuality?
Yes. Come on, come on, shed the skin that's held you in, I held you far too long. Now how bad could it be if you should fall in love with me? Now how bad could it be? Sexuality. Come on, come on, kiss away the ones who say
Kedi Lang qui dit « Release yourself upon me », je dois dire qu'il fut un temps où ça ne m'aurait pas dérangé. Hein. Maintenant, c'est autre chose, mais il fut un temps où ça ne m'aurait pas dérangé.
Qu'est-ce que ça veut dire? Les
ignorants qui n'ont pas compris. Pas sans contrainte.
Il faut que je trouve une traduction adéquate. Dans 2 minutes, je vous le dirai.
Moi, je me proposais de faire wap du wap le temps que tu réfléchisses.
Je sais pas, moi. C'est pas vraiment défoule-toi sur moi, décharge-toi sur moi. Enfin, tu vois, hein, quelque chose comme ça. To release oneself, mais dans un sens sexuel, évidemment.
Fais-moi tout.
En gros.
Ah ben, c'est bien.
Hein, Kedi Lang qui te dit ça quand même. Bon. Maintenant, elle ne me fait plus trop rêver, mais il fut un temps. Je préfère Hélène maintenant, évidemment. Bon, je vous parlerai de mes fantasmes un autre jour, peut-être.
une émission, ça faut le dire, spécial fantasme.
On doit faire un spécial coming out, hein, un autre séjour. On a dit qu'on le ferait. Hein.
Mais quoi, à la radio ?
Oh, oui, raconter.
Ah, moi j'ai cru que...
Spécial parents, on avait dit qu'on ferait raconter les réactions de nos parents.
Ah oui, d'accord. Mais je pense qu'on pourrait même faire un, ça faut le dire, sur un coming out, les coming out.
Tu veux dire un bistrot lesbien ?
Ouais, ouais. Un bistrot, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, un bistrot lesbien, ça faut le dire, quoi. Oui, je trouve que ce serait intéressant de le faire et d'enregistrer. Et... Oui, d'accord.
Ce serait bien de faire un soirée si spécial parents.
Ben d'accord, on va le faire.
Bon, maintenant... On va se pencher sur la marche mondiale des femmes, dont vous savez, si vous avez été très attentive et si vous êtes sortie des sentiers battus de l'information, que la partie européenne s'est tenue à Bruxelles samedi dernier et qu'il y avait
toute la journée
probablement 35 000 femmes, si pas plus. Hein.
Ben écoute, si la police disait que déjà qu'il y en avait 25 000, on peut carrément en ajouter 10 000 de plus. Hein.
Ouais. Moi, 35 000, ça me semble un bon chiffre.
Oui. Moi, je pense que ça devait être entre à peu près 35 000.
Non, je sais qu'on s'est arrêté dans une rue, on s'est mis sur le trottoir pour regarder passer le cortège. Et une heure plus tard, on était toujours sur notre bout de trottoir et on n'a pas vu, on n'était pas tout au début du cortège et on n'a pas vu la fin. Donc,
ouais, on a vu passer du monde.
Non, mais il y avait énormément de femmes, c'était fantastique. Il y avait des femmes chinoises, des femmes afghanes, des femmes d'Iran, d'Irak, du fin fond de l'Espagne, d'Italie, de tous les pays d'Europe, ça c'est sûr.
De Biélorussie.
Et aussi, je dirais, du monde entier, parce qu'il y avait des Mexicaines, il y avait des femmes d'Amérique latine qui étaient représentées. Enfin, c'était extraordinaire. Moi, ça m'a fort touchée dans le sens où c'était pas uniquement une marche européenne comme annoncé, mais c'était carrément la marche mondiale à Bruxelles.
Avant
New York. Et ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur, mais d'un autre côté, je trouve que le parcours était lamentable. Et là, il faut quand même critiquer très fort la préparation de la marche qui a canalisé les femmes, encore une fois, entre quatre murs, c'est-à-dire donc rue de la Loi et rue Béliard, on a circulé, on a défilé, on a marché sur le bitume où il n'y avait personne sur les trottoirs, donc on défilait pour nous-mêmes.
Dans un décor de théâtre, Anne Nissen, je trouvais que c'était assez bien trouvé. C'était vraiment ça.
Je sais pas, je trouve que c'est pire qu'un décor de théâtre.
C'était vraiment désert, loin des yeux.
Devant des bureaux vides, ouais.
Oui, les fenêtres des bureaux vides, tout vide. Enfin, on est sorti du bois, c'est le cas de le dire, pour rien. Hein, le bois du cinquantenaire, mais finalement on a défilé pour les arbres, ça ne me dérange pas de défiler pour les arbres et les feuilles qui tombent, mais enfin je trouve ça quand même humiliant et vraiment c'est honteux pour toutes les femmes. Il y a des femmes, heureusement qu'on a décidé d'aller manifester après sur la Grand Place et qu'on était à plusieurs centaines à se retrouver là, avec nos calicots, etc. Parce qu'il y a des femmes qui, avec qui j'ai parlé, qui étaient vraiment abasourdies par cette espèce de vide de personnes autour d'elles et qui ont fait un voyage très long, qui ont payé cher ce voyage. Depuis des mois, elles épargnaient pour venir, toutes contentes de participer à la marche du siècle, qui est une marche du siècle d'ailleurs, ça je dois le dire, pour en avoir fait de nombreuses, ben, c'était franchement une grande première. Mais c'était scandaleux de traiter comme ça toutes ces femmes qui sont venues de loin, qui n'ont vu personne, qui ne pouvaient parler à personne.
Surtout que les politiques se sont arrogé le droit de se mettre en début de cortège, voilà, alors qu'elles n'ont rien fait et certainement pas convaincues qu'on avait le droit de se montrer au grand jour et parmi les touristes.
Exactement.
Vous abordez un petit peu tout en un coup, hein, les filles.
Pourquoi ?
Ça part dans tous les sens. Moi, je croyais qu'on allait essayer de faire un débat structuré.
Oui, bah, écoute, on peut structurer tant qu'on veut. On a beaucoup à dire, surtout, tu sais, seulement des structures.
Une des choses qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'était la plus grosse manif à Bruxelles depuis la Marche Blanche.
Oh oui, oui, absolument.
Incontestablement. Et effectivement, c'est assez édifiant de voir que le pays ne le sait pas. Personne ne l'a dit.
Non, il y a eu très peu d'écho dans la presse. Hein. Scandaleux, sabotage. Hein.
Ça peut nous faire réfléchir sur la dangerosité de ce
mouvement de femmes.
Oui, et manifestement, c'est un mouvement qui fait peur quelque part, puisqu'il est étouffé de la sorte. Bah oui, donc il y a différentes choses à discuter. Le parcours, on voulait, oui, on peut reparler de ça, ce parcours absolument catastrophique.
Dans une ville fantôme, en fait.
Est-ce
Oui.
que on peut parler aussi de l'utilité de marcher pacifiquement dans ce type de contexte?
Absolument.
On peut parler stratégie. Quelle stratégie adopter à l'avenir face à ce qui s'est passé? Et bon, voilà.
Mais
On a
c'était difficile aussi de rentrer dans l'organisation de cette marche parce que c'était organisé du haut, les décisions avaient été prises.
Comment ça s'est passé ça? Parce que moi, j'ai vécu ça de l'extérieur.
Mais en fait, bon, les Québécoises ont fait cette marche du pain et des roses. Elles ont trouvé que c'était très chouette au moment de Pékin en 95. Et donc, elles ont essayé de voir si c'était possible de lancer une initiative au niveau mondial. Et effectivement, elles ont trouvé des interlocutrices. Et pour chaque pays, il fallait trouver des interlocutrices qui fassent interface entre l'organisation mondiale et la répercussion au niveau national. Et en fait, les organisations qui ont été contactées ou celles qui ont répondu à l'appel, en tout cas, puisque c'est vrai que, notamment pour l'organisation de la marche européenne, on sait pas, les organisations se sont battues, hein. La vie féminine y est allée un peu bon gré mal gré et bon, elles ont fait le boulot qu'elles ont pu et on a vu le résultat. Mais oui, c'était très très organisé. Il y avait très peu de place pour les gens qui n'étaient pas des professionnels des luttes de femmes ou de la vie, enfin de la vie associative
J'ai
féminine.
entendu qu'il a
Il y
été
avait
imposé que ce soit organisé par des organismes d'État. Et que c'est pour ça que c'est la coordination
Oui,
des
vraisemblablement,
femmes
c'est bien
francophones qui
possible.
s'en est occupée
C'est bien possible.
quand tu es francophone et quand tu es
Mais
néerlandophone, je ne sais pas
par
qui.
exemple, les.
C'est le
Oui.
pendant de la
D'accord.
coordination francophone des femmes
Et
de
donc,
marche.
la
Même les
présidente de
réunions.
cette coordination, c'est Anne-Marie Lizin, c'est
Oui.
ça? Donc.
Mais même les réunions avaient lieu en plein après-midi. Donc les femmes qui travaillaient, c'était vraiment pas la peine d'y penser, quoi. On n'avait pas le droit, on n'était pas conviés à y aller.
Ben, c'est-à-dire que les réunions avaient lieu dans les périodes de travail de ces dames entre 1 heure et 5 heures, quoi. Hein? C'est-à-dire des femmes qui ont organisé cette marche et qui sont payées, qui ont été payées pour faire ça. Enfin, c'est parmi leur boulot,
C'est peut-être pour
hein.
ça que ça a été si mal organisé. Enfin,
Mais
non,
non, on peut
je
pas
ne vais
dire.
pas dire
C'est
ce que
comme si
je ne vais pas
j'avais.
dire ça parce que c'est faux.
C'est une
Il y avait là.
organisation qui est une organisation politique, quoi, récupérée par la politique, et ici, ça a été récupéré par le PS et par les femmes catholiques, là.
Mais c'est vrai que De Donea avait interdit toute manifestation dans Bruxelles-Ville, mais à partir du moment où on avait toutes les ténors femmes en tête de cortège, elles auraient pu aussi s'en souvenir et se pointer
Bon,
le jour de
cette
la
histoire de parcours, je voudrais qu'on
négociation.
revienne sur cette histoire de parcours. Vous dites que le parcours.
Normalement, on allait jusqu'à la place Jourdain et on passait par le boulevard des Arts.
Et donc les flics ont barré la route et on n'a pas suivi le parcours qu'on
Non,
aurait dû
non.
suivre.
C'est vrai que moi, sur le coup, j'ai pas du tout fait attention et. Mais il y a des femmes qui sont allées voir les forces de l'ordre, qui pour l'occasion étaient exclusivement féminines au premier
Oui,
rang,
bien sûr.
et qui
Comme ça, on n'a pas
ont.
envie de taper dessus, évidemment, puisque ce sont des femmes.
Qui disaient en plus, on aimerait bien être avec vous, t'imagines. C'est vrai que moi, sur le coup, j'ai pas du tout réagi, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont réagi, qui ont essayé de parlementer avec les flics et impossible de faire respecter le parcours.
Ben là, on doit déjà interpeller les femmes de la coordination là-dessus.
Absolument. Il y a deux bruits qui circulent, hein, parce qu'il y a le bruit qui circule que Anne-Marie Lizin était très contente de ce parcours, qu'elle trouvait que c'était très bien et qu'elle l'avait décidé comme ça. Et d'un autre côté, l'autre bruit qui circule, c'est que De Donea a été contactée par l'une des organisatrices, apparemment une néerlandophone, et qu'elle n'aurait pas rempli, elle, les papiers qu'il fallait pour obtenir donc le droit de manifester jusqu'au centre de Bruxelles. Donc, qui est-ce qu'il faut croire? On n'en sait rien. Il y a une enquête qui est menée, une enquête interne et autour de nous, parce que finalement, il y a plusieurs versions en même temps, et on ne sait pas laquelle est vraie. Voilà. Et avant de bouger, il faut déjà écrire à Amazon. Ça, je trouve qu'il faut pousser les personnes qui étaient là à écrire au moins une lettre individuelle à Amazon, au CFFP, et donc à la présidente du CFFB à Amazon, 10 rue du Méridien à 1210 Bruxelles, parce que c'est vrai que c'est un scandale et il faut qu'elle le sache. Déjà, ce jour-là, elle a reçu beaucoup de protestations, notamment des Françaises, des Espagnols, enfin, des Suisses, des femmes qui étaient scandalisées d'avoir fait. Il y a des femmes qui avaient les larmes aux yeux, hein.
Vraiment. Évidemment, 300 femmes qui sont venues de Galice, c'est quand même énorme. Quoi. Alors que pour la marche régionale, les femmes n'ont eu aucun problème à passer dans le centre-ville de Huy. Quand elle est bourgmestre, elle sait se souvenir de certains trucs. Hein.
Oui. Enfin bon, on ne sait pas encore le fin mot de l'histoire, donc ce n'est pas encore terminé, hein, ça ne fait que commencer. Et finalement, c'est ça qu'on peut se dire, tout ne fait que commencer, ce n'est pas une finalité, cette marche mondiale, c'est vraiment une première grande marche mondiale qui a lieu. Et il faut maintenir l'énergie, il faut maintenir tout ça à flot, parce que je pense que, comme tu le disais, Cécile, les femmes, les mères de la place de Mai,
les femmes en noir de Belgrade.
Voilà, les femmes en noir de Belgrade, ça fait des années et des années, des 20, 10, 20, 30 ans qu'elles sont toutes les semaines ou une fois par mois sur la même place et qu'elles tournent en rond avec leurs foulards, leurs drapeaux, enfin pas des drapeaux, mais des foulards, des pancartes, etc. Donc c'est ça qu'il faut, il faut maintenir la pression par une régularité, il faut que cette marche soit symboliquement reprise chaque année. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place pour le siècle qui vient.
La conclusion, oui, ça doit être ça. Oui. Marie-Françoise disait, parce que moi j'avais l'impression quelque part d'un échec, dans la mesure où c'était quand même très très déprimant d'être avec toutes ces femmes et de marcher presque... C'est comme si on nous avait enfermés dans un stade vide et on Exactement. Tournait en rond. Parce qu'on a marché en rond, il n'y avait Absolument. Pas un chat. C'était vraiment une impression...
S'il y avait Isabelle Durand devant son bureau.
Il paraît, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, comme si... C'est pour la première fois, comme si je faisais vraiment partie d'un truc hyper de paria ou je sais pas, et qu'on était vraiment canalisé, enfermé dans un truc. Enfin, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. En plus, au milieu de cette foule immense, c'était. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que. Donc, Marie-Françoise disait, moi je disais, c'est un échec, elle dit non, c'est une réussite parce qu'avec trois chics et un ballon, on est parvenu à réunir 35 000 femmes. Ça, c'est vrai quand même. Que,
oui, il y avait quand même une dimension historique de cette marche.
Tout à fait. Et on peut se dire, pour terminer sur une note optimiste, que c'était un début et qu'on va maintenant faire pression pour que cette marche s'installe dans la tradition et
soit connue en tout cas.
Oui. Parce que donc. Moi, quand j'étais dans cette marche et que je disais, mais c'est une catastrophe, il n'y a personne, on me disait, mais non, les médias sont là. Et j'ai interpellé Anne-Marie Lézin qui m'a dit la même chose. Mais en fait, on a vu ce que les médias en ont fait.
Rien. Vraiment, moi, je peux vous dire, je reçois les dépêches AFP, Reuters et Dépic, rien du tout. Même sur la marche mondiale qui a eu lieu hier.
Mais hier, le mardi 17 octobre, on aurait dû avoir vraiment une répercussion mondiale de la réception de toutes ces femmes à New York. Eh bien, rien nulle part, sauf un petit encart de 15 cm dans la Libre Belgique. Il faut quand même reconnaître que c'est le seul journal qui l'a fait, même pas le soir, même pas le matin, rien, aucun autre journal. C'est un vrai scandale qu'il faut absolument
dénoncer
très très fort, parce que maintenant, cette fois-ci, on a la preuve devant nos yeux qu'il y a un sabotage des informations.
De faire le silence, absolument. De maintenir la chape de silence sur les mouvements de femmes et leurs revendications.
C'est clair, incroyable, net, parce qu'on était 30 000 à gueuler.
Prague, Milou, oui. José Bové, Cassin, McDo, enfin bon, ça,
voilà, ils sont tous
ça
là.
Fait le tour du monde, quoi. Mm-hmm. Seattle,
30 000 femmes et pas une seule casse, pas intéressant.
Voilà, c'est ça. Pendant ce temps-là, le jour même, il y avait une centaine de jeunes qui cassaient encore des vitrines au centre pour la soi-disant pour soutenir la Palestine. Eh bien, il y a eu des images à la télévision. On en a parlé en long et en large
alors
à
que,
tous les journaux parlés. Voilà.
En tête
deux
du
poids,
cortège des femmes en noir, route, une femme en noir israélienne tenait la main à une femme en noir palestinienne.
Voilà, et ça n'a même pas été filmé symboliquement.
Ah
je trouve
non,
ça scandaleux.
On préfère parler d'Arafat et de Barak qui refusent de se rencontrer.
Voilà, on préfère parler de la guerre, encore une fois. Hein. On est toujours dans les mêmes symboliques masculines. Et voilà, du patriarcal, oui, voilà. On n'en sort pas, enfin, il faudrait qu'on en sorte. Hein. Il serait prêt plus que temps parce que je ne sais pas où on va, mais là où on va, on y va vite, il me semble.
Donc,
stratégie. Mais tu nous passerais pas un petit truc?
Ça va, ça va.
Puis on reparle de stratégie après.
Ok, on va écouter une interview des femmes afghanes. Ce sont des interviews que nous n'avons pas réalisées parce que la technique, c'est une chose qui trahit souvent au moment où il ne faut pas. Et donc évidemment, mon mini-disque est en panne. Et heureusement, les gens d'Indymedia, dont je vous donne l'adresse du site internet parce qu'ils font des choses très chouettes, notamment ils hébergent notre émission. Via Protesta, bref, c'est belgium.indymedia.org, donc Belgium, belgium.indymedia, indymedia.org. Ce sont eux qui nous ont fourni ces interviews. On écoute les femmes afghanes.
Nous sommes ici pour manifester contre la situation qui est faite aux femmes en Afghanistan. Il faut que toutes les femmes se sentent solidaires de ce qui se passe là-bas. On ne peut pas accepter une telle chose. C'est la négation de la femme dans sa totalité. C'est épouvantable. Et il faut absolument que les gouvernements en prennent conscience et soutiennent, agissent pour que cette situation-là change.
Et en fait, en Afghanistan, les femmes doivent toutes se promener comme vous êtes maintenant.
Non, c'est pas. Les talibans exigent que les femmes se promènent comme ça. Ils exigent qu'elles ne peuvent pas sortir sans porter cet habit-là. Donc c'est épouvantable. C'est vraiment. Elles n'ont plus d'existence. Pas d'existence publique, mais elles n'ont pas droit non plus ni à la santé, ni à l'éducation, ni à rien du tout.
Et quand elles sont seules, on dit qu'elles ne peuvent même pas sortir faire leurs courses.
Non, absolument pas. Il faut sortir habillée comme ça et accompagnée de quelqu'un, soit de la famille, quelqu'un de proche de la famille. Sinon, effectivement, elles ont des problèmes. Elles peuvent se faire taper dessus. Ou... Donc, c'est pas une vie. Hein. C'est épouvantable. Et... Il faut que les hommes portent un petit peu ça pour se rendre compte de ce que ça veut dire.
On a l'impression d'être en prison.
Oui, complètement.
Je pense que la situation des femmes afghanes aujourd'hui touche vraiment le plus bas. C'est légalement, on abolit tous les droits. C'est-à-dire le taliban, c'est-à-dire les milices taliban, c'est-à-dire disons plutôt le Pakistan, dans son politique de volonté de récupérer l'Afghanistan, a lancé toute une sorte de série de décrets, de lois, elle a créé des lois, qui les fait appliquer par les, soi-disant, les talibans. C'est pour vider le pays de toutes les forces possibles, des résistants ou d'autres. Vous savez pourquoi les femmes sont les femmes autant? Pour une simple raison, parce qu'après 20 ans de guerre, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient actives en Afghanistan. Il y a, je ne sais pas, des centaines de milliers de femmes veuves ou chefs de la famille. Mais une fois qu'on empêche de travailler, le pays est paralysé automatiquement. Je pense actuellement que le soutien des femmes en Afghanistan vraiment touche l'horreur. Et c'est pourquoi nous sommes ici, parce que c'est avec le mouvement des femmes, c'est-à-dire les femmes ont fait le pilier de la famille, c'est le pilier de la société. Je pense que le mouvement des femmes est très important. Et c'est avec ça qu'on veut récupérer les droits des femmes afghanes en Afghanistan et de reconstruire la société afghane.
Voilà, c'est vrai que quand elles sont passées, c'était vraiment plus qu'émouvant, c'était violent. Enfin, elles sont donc passées dans le costume, la burqa que les femmes sont obligées de porter. Donc ça les voile vraiment de la tête aux pieds avec un grillage devant les yeux, ce qui rend impossible la vision.
Ça bousille leurs yeux.
Ça détruit toutes les possibilités de repères dans l'espace. C'est à peine possible de marcher, donc on oublie conduire, même être vigilante dans un endroit pour traverser, puisqu'on voit très très mal sur les côtés.
Moi, je trouve que ce serait une bonne idée, ce qu'elle a lancé comme thème, là, cette femme, qu'il faudrait que les hommes mettent un peu un jour cette burqa et aussi se mettent tout ce que les femmes aussi d'Iran, etc., ont sur la tête, même des masques, etc., en fer, non, en métal.
Elles ont des gants aussi.
Et aussi, qu'il n'y a qu'un seul œil qui dépasse, donc il n'y a plus qu'une demi-vision, les voiles noires, les robes noires, tout ça sous le soleil. Je voudrais quand même bien que les hommes s'y mettent aussi et portent ça pour voir un peu ce que c'est, ce que
Ben
ça
on
représente.
pourrait lancer l'idée d'une journée
Oui,
de l'année où on inverse les costumes et où
Un charivari.
Oui, et des talons hauts
le
et
Premier
tout
ministre,
machin.
par exemple, est prié de
En
passer
jupe
la journée en
courte.
burqa.
Oui, ou en jupe courte avec des talons aiguilles
Voilà, oui.
et des bas nylon,
Mais
etc.
même en Iran, j'avais lu une dépêche il y a quelque temps d'un professeur d'université qui militait pour justement qu'on autorise les femmes à porter autre chose que du noir, puisque il avait, le brave homme, quand même compris que ça favorisait grandement les dépressions, pas que ça, remarque. Et bon, c'est vrai que les femmes afghanes sont interdites de travail, interdites d'éducation, y compris. Alors, ce qui est très très intéressant et très contradictoire, c'est que les femmes n'ont plus le droit de travailler ni d'étudier, et il n'y a que les femmes qui ont le droit de soigner les femmes. Donc, il n'y a personne qui a le droit de soigner les femmes. Et donc, de la même façon que en Inde ou en Chine, il y a un génocide des petites filles, là, c'est pareil. Les talibans sont en train de laisser mourir les femmes qui étaient là. Et je crois que ce que disait cette femme sur le fait que, après 20 ans de guerre, il y avait une classe creuse énorme au niveau des hommes, et le fait qu'il y avait, en fait, tous les hommes quasiment en âge de combattre étaient soit estropiés, soit morts. À cause, enfin directement à cause de leurs blessures. Et je crois qu'effectivement, les femmes se sont retrouvées en position de force et que les derniers hommes qui restaient, elles l'ont absolument pas supporté. Et beaucoup disent que les talibans sont des hommes très très jeunes, certains qui sont même pas majeurs, qui ont à peine 15 ans, qui en fait sont élevés dans un monde complètement faussé. Et je crois qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et ils sont d'autant plus manipulables. Ils prennent un grand plaisir, c'est un peu comme s'ils jouaient à un jeu vidéo en grandeur nature. Mais vraiment, ils sont complètement coupés des réalités.
Par contre, les dirigeants du monde entier ne peuvent pas dire qu'ils sont coupés des réalités, qu'ils ne savent pas ce qui se passe et ce que ça implique pour les vies de ces femmes. Je propose qu'on ne discute plus trop et qu'on écoute un maximum de ces interviews. Puisque ça a été le blackout sur cette marche, on a la chance d'avoir un témoignage. Je propose qu'on la passe.
Très
On va
bien.
maintenant écouter des Algériennes.
Aujourd'hui, bah, si vous voulez, c'est la lutte des femmes contre la pauvreté et la mondialisation, elle engendre la pauvreté qui touche particulièrement les femmes, hein. On se rend compte que nous, on est françaises, on vient de Paris, hein, de la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis exactement, de 93. Et si vous voulez, on se rend compte en France que les femmes, c'est elles qui sont le plus touchées par le chômage ou par des emplois précaires. Et quand on dit donc en France lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre ça. Et ça va effectivement sur la lutte contre la mondialisation. On se sent, oui, ça va avec.
Et dans votre lutte quotidienne, vous faites le lien chaque fois dans la lutte plus globale dans
Tout à
laquelle vous
fait.
intégrez.
Tout à fait. On fait partie d'un mouvement féministe qui s'appelle Femmes Solidaires, où notre lutte quotidienne sur des revendications féministes sont très ancrées sur la lutte sur cette société qui ne nous convient pas. Oui, tout à fait.
Et bon, y a du monde ici, ça vous donne
Oui,
beaucoup de
de
courage.
Saint-Denis, nous sommes venus à 60, de la Seine-Saint-Denis.
70.
500 de la Seine-Saint-Denis. Bon, alors de toute la France, j'ai pas le chiffre exact. Oui. En plus, ça nous semble important parce que c'est quand même une manifestation européenne, hein. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on manifeste à Paris sur ces mêmes revendications. Et de venir ici aujourd'hui à Bruxelles, de rencontrer les femmes espagnoles, italiennes, etc. On est contre la mondialisation. Demain, on a une délégation de Saint-Denis et algérienne, les femmes algériennes, exact, qui luttent contre la intégrisme. Et demain, il y a une délégation qui part sur New York pour manifester mardi à New York devant l'ONU.
Et donc, vous trouvez important de se déplacer comme ça maintenant, depuis Seattle,
Oui. Je pense qu'effectivement, depuis Seattle, Alors, est-ce que c'est Seattle ou est-ce que déjà dans les consciences, ça amenait cette réflexion-là? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la lutte, elle ne peut pas se satisfaire uniquement dans son pays, même s'il y a des choses qui sont sur ce qui concerne notre pays. Mais aujourd'hui, lutter contre la pauvreté, il faut lutter mondialement, il faut que toutes les femmes, elles s'allient ensemble et c'est lutter mondialement.
Moi, personnellement, je suis ici, c'est pour témoigner ma solidarité avec les femmes françaises, bien sûr, avec toutes les femmes, pas spécialement françaises, mais j'habite en France, je suis une immigrée. Et puis je viens aussi dans un pays qui représente quand même, qui est la capitale de l'Europe. Et puis voilà quoi, c'est pour témoigner notre besoin.
La femme algérienne, on est algérienne,
eh ben oui, on
est les quatre là.
Voilà
on présente la femme algérienne qui en a vraiment besoin d'être.
Elle va vraiment de l'avant. Ouais. Elle va de l'avant son émancipation, même si elle est. Elle stagne, mais elle va quand même de l'avant parce que bon, ben, y a des femmes quand même qui sont battantes et qui combattent.
Qui fait beaucoup de choses, la femme algérienne. Actuellement, elle a un grand besoin et elle a besoin d'être soutenue par toutes les femmes du monde entier. Voilà. On en a vraiment besoin.
Et puis on ne veut surtout pas vivre et reproduire ce que nos mères et nos grands-mères ont vécu.
Voilà.
Et c'est important de rencontrer d'autres femmes du monde entier.
Et on a besoin d'être soutenues, surtout actuellement. La plus grande cause qu'on défend, c'est le code de la famille, le retrait du code de la famille qui bousille la femme algérienne. Voilà, c'est très important pour nous. On a besoin d'être soutenues. Et on est là un peu pour
dénoncer
ce code de la famille, de l'infamie même.
Code infâme. Ouais. Et surtout, on est là aussi pour démontrer que la femme algérienne, elle existe. Même si par tout moyen, on cherche à l'entraver. Elle existe, elle est là, par tout moyen. Je dis bien par tout moyen, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent. Et puis, c'est un peu notre message aussi. Et nous combattons, donc, et puis nous respectons leur mort, parce que leur mort, c'est une partie de nous. Donc, on est là pour montrer qu'on est là. Qu'on est là vraiment, qu'on vit, même s'il y a beaucoup qui sont morts.
Et que tant
que femme, oui, qu'on est là.
Et le collectif des femmes algériennes n'ont pas pu venir à cause des visas aussi. C'est un gros problème de visa. Et nous, femmes algériennes qui vivent en France, on a de la chance de les représenter ici et représenter leur France.
En fait, elles sont coincées en Algérie.
Absolument, c'est le problème des visas et c'est pas facile. Ouais.
Je crois que quand on aurait écouté toutes ces interviews, il y a une dimension universelle des revendications des femmes qui va se dégager et on va comprendre pourquoi il y a eu ce blackout.
Oui.
Parce que finalement, ce qui s'est passé samedi et mardi, c'est la frayeur, la peur ultime du patriarcat.
Oui, devant la mondialisation du fait que les femmes se rendent compte qu'elles sont brimées de la même manière partout. Et qu'elles ont un message commun, finalement, et une énergie commune.
Et elles se mettent ensemble, elles marchent ensemble pour dire...
Absolument. Mais justement, je voulais dire à propos de cette marche, dans le soir, il y a eu un compte-rendu. Et pour rejoindre ce que les femmes algériennes disaient, eh bien, rien n'est gagné, sous-titre l'article. Et une vieille dame qui faisait un bout de chemin avec les marcheuses, parce que en fait des femmes se sont mises à marcher déjà une semaine avant sur Bruxelles, donc en traversant la Belgique, et de part en part de 6 points différents. Et une vieille dame qui faisait un bout de chemin avec les marcheuses dit « Ben oui, comme femme, votre vie est bien meilleure que celle que je menais quand j'étais jeune ». Mais continuez, parce que quand j'entends les discours machos de mes petits-fils, je me dis que rien n'a changé. Donc, une femme âgée, donc qui a vécu la guerre et qui a vécu probablement presque une grande partie du siècle, voilà ce qu'elle constate. Elle constate, en entendant mes petits-fils, rien n'a changé. Non, mais c'est terrible de se rendre compte. C'est vrai qu'il y a des choses dans le confort, dans une certaine... catégorie de vie, hein, pas pour toutes les femmes, pour les femmes européennes, occidentales, blanches et pour les américaines. Il y a un petit peu plus de confort dans nos vies, mais à quel prix ? À quel prix il faut s'organiser quand il y a une famille, quand il y a des enfants, etc. Et finalement, c'est toujours la même chose qui revient, hein, c'est qu'on constate que les petits garçons n'ont pas encore changé d'un iota, ils sont toujours dans le même moule et que rien n'a changé depuis des siècles et
moi,
des
là,
siècles.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes complices hein, dans cette histoire. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse là-dessus, hein, mais...
Mais des femmes complices, est-ce que ce sont les femmes qui sont complices ou est-ce que c'est le système dans lequel elles vivent et qui leur martèle que
je
leurs
n'en
enfants...
sais rien, mais elles continuent à élever leurs gosses de la même façon oui, et à faire des petits garçons.
Mais c'est pas les seuls, c'est aussi les maris qui ne font rien, hein. Il n'y a pas que les mères. L'éducation d'un enfant se fait à deux.
Oui,
donc je veux
bien.
Dire, il y a aussi la.
C'est sûr qu'on se demande toujours pourquoi il y a des femmes qui se rebellent et pourquoi il y en a qui se soumettent.
Mais oui, ça, c'est tout à fait d'accord. Mais il y a aussi. Mais ça, je vous assure qu'il y a une chose qui joue aussi très fort, c'est qu'une fois que l'enfant est retiré de sa famille, enfin lâché de sa famille et vient dans le milieu scolaire, c'est presque. Il faut presque tout refaire tous les jours, hein, parce que le milieu scolaire entretient les rapports de force et de sexe. Hein. Le milieu scolaire entretient les rapports de violence entre les filles et les garçons. La mixité n'a rien arrangé du tout. Hein. On croyait que ça allait peut-être un petit peu arranger les bidons, comme on disait il y a 15-20 ans, en 80, quand tout est devenu mixte. Eh bien non, hein, les filles encaissent toujours autant et l'illusion dans laquelle elles sont entretenues existe toujours. Hein, l'illusion d'égalité entre les filles et les garçons, alors qu'elles sont nettement meilleures qu'eux et qu'elles terminent avec des diplômes souvent... bien meilleure et compétente et tout, eh bien, elle se retrouve quand même dans le fond du panier pour tout ce qui est boulot un temps soit peu intéressant. Donc, quand je pense que ce trou de cul de Louis Michel à son fils de 25 ans qui est promu ministre à la région Wallonne, enfin, hein? Tu as déjà vu une femme de 25 ans promue ministre ou députée quelque part? Moi, j'ai jamais vu ça.
Je ne sais pas quel âge a Jean-Marie Arena.
Ben,
35 ans.
Enfin, moi, je trouve ça vraiment encore une fois une preuve que le patriarcat est vraiment dangereux pour nous, que c'est vraiment l'ennemi principal. Hein, c'est vraiment un truc qui démolit tous les rapports sociaux et tous les rapports de sexe et qui entretient une violence sournoise, même pas cachée finalement, parce que là on en a la preuve dans la presse, c'est une violence carrément frontale vis-à-vis des femmes qui sont en train de s'organiser, comme tu le dis, quoi, hein, qui sont en train de voir qu'elles sont ensemble dans le monde entier, elles sont soumises aux mêmes problèmes du patriarcat.
On continue à écouter les femmes qui étaient là samedi.
C'est déjà mon sixième jour, moi. Je suis déjà partie lundi, moi. J'ai fait une démarche belge. On est parti de Wagny, et donc on a fait tout le Hainaut avec des Françaises, des Albanaises. Donc moi, je faisais partie d'une délégation namuroise. Et donc, c'est le point final pour moi aujourd'hui, mais il y en a qui continuent jusqu'à New York. Et donc, je marche, je travaille dans un mouvement féminin, et il est vrai qu'on a le temps de constater violence et pauvreté, c'est vrai, ici même en Belgique, parce qu'on est solidaire avec toutes les femmes du monde entier, mais c'est vrai qu'en Belgique, on souffre de pas mal de choses aussi en termes de violence et pauvreté.
Par exemple
donc, mais c'est pas la pauvreté telle qu'elle dit dans les rues, mais par exemple, les femmes, on se bat par exemple pour un statut professionnel des gardiennes encadrées parce qu'elles gagnent leur vie difficilement, mais n'ont pas de statut professionnel. Et bien ça, c'est pauvreté, parce que si elles perdent par exemple, si l'époux s'en va, elles n'ont plus rien, plus un revenu, elles n'ont même plus le droit de garder leurs enfants. Ça, c'est un exemple. On cherche aussi à créer un fonds de créances alimentaires parce qu'une femme aussi au foyer dont l'époux la quitte, eh bien, elle se retrouve sans revenu aussi et bascule dans la pauvreté du jour au lendemain. Travail égal, salaire égal aussi, on est encore loin du compte et c'est pas facile de vivre avec moins 40 000 francs par mois, surtout si on est seul. Il y a beaucoup de familles monoparentales et c'est beaucoup de femmes qui sont à la tête de familles monoparentales, donc des exemples, il y en a à l'appel. Violence, il y a la violence physique bien sûr, mais il y a la violence morale, les humiliations continuelles, l'époux qui veut pas donner d'argent à la femme ou il faut aller demander pour pouvoir aller faire ses courses, acheter une paire de bas collants. Ça, ce sont des violences quotidiennes et ça, on en a des témoignages tous les jours, des témoignages simples et humbles, je dirais, mais ça, c'est inacceptable, ça.
Est-ce que les femmes se souviennent de la lutte des femmes de la FN pour travail égal, salaire égal?
Non, ça c'est celles qui ont vécu cette génération-là, oui. Mais les plus jeunes, non, ne le savent pas. Et ça c'est vrai qu'il faut se faire entendre et qu'il faut aller vers les plus jeunes parce que pour elles, elles vivent sur beaucoup d'acquis. Elles ne se rendent pas compte que nos mères et grand-mères se sont battues pour ça. Et ça c'est dommage. On nous dit aujourd'hui féminisme, il n'y en a plus besoin, mais si plus que jamais il y en a besoin, le féminisme, c'est simplement prendre sa femme en tant que sa place en tant que femme dans la société.
Okay. Et on vient pas de très loin en fait, on vient de Bruxelles. Et en fait, on est de la chorale de chant social du mouvement ouvrier chrétien de Bruxelles. Et donc, évidemment, on embraye à toute la dynamique de la marche mondiale des femmes pour lutter contre les injustices qui sont faites aux femmes à travers le monde, aux femmes et enfin, je veux dire, comment. Aux femmes et parfois aux hommes aussi dans leur féminité en fait. Donc c'est plus l'aspect masculin des choses, enfin masculin dans ce que ça a de parfois oppressant par rapport à une autre sensibilité différente. Et donc on revendique la place des femmes dans, notamment dans les décisions, qu'elles soient politiques, économiques, sociales.
Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus touchées par la globalisation néolibérale qui s'installe maintenant?
Oui, effectivement, je pense que 70% des personnes qui sont touchées par la pauvreté sont des femmes. Et donc, à la fois au niveau des conditions économiques, mais aussi au niveau de la violence, qu'elle soit psychologique, économique, morale, qui est faite aux femmes. Les femmes sont particulièrement plus victimes que les hommes. Je dirais que ça se ressent déjà chez nous, mais de manière encore plus criante dans les pays du tiers-monde.
On continue? Bah oui, hein. On continue. Minute.
Nous sommes venus parce qu'il faut que les femmes du monde entier fassent bloc pour qu'on prenne conscience que les plus de la moitié de l'humanité est laissée dans l'indifférence et toutes les actions que les femmes mènent ne sont pas prises en compte. Maintenant, les femmes ont décidé de se mettre debout ensemble, de marcher ensemble pour changer le monde, pour que le monde soit meilleur. C'est pour ça que je suis venue.
Et vous êtes d'où?
Moi, je suis du Congo. Je suis du Congo, du Grand Congo, du Congo Kinshasa. Et alors, j'aimerais ajouter qu'en ce qui concerne le Congo Kinshasa, si nous sommes ici, c'est vraiment avec beaucoup d'amertume pour venir sensibiliser toutes les femmes qui sont ici et celles qui ne sont pas sur le sort de notre pays, nos enfants, nos maris, nous les femmes, nous sommes des victimes injustes, nous sommes injustement attaqués par une guerre qu'on n'a pas voulu. Nous demandons à ce que les femmes du monde entier puissent être sensibles à notre condition qui défendent la cause du peuple congolais.
Est-ce que les femmes sont plus concernées par la mondialisation? Est-ce qu'elles subissent les effets de la mondialisation?
Tout à fait, ce sont les premières victimes de la mondialisation. Nous savons que depuis plusieurs années, ceux qui ont le pouvoir de l'argent n'ont jamais tenu compte de la destinée de la femme ou du bien-être de la femme. Alors que les femmes se battent désespérément, aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'Afrique, ni t'étais les femmes africaines, l'Afrique n'existerait tout simplement plus. Et si l'Afrique est dans l'abîme aujourd'hui, c'est parce que la mondialisation veut enterrer les Africains. Il y en a d'ailleurs qu'on enterre vivantes chez nous.
Je suis présente ici parce que ce qui se passe dans nos territoires occupés actuellement est plus qu'inhumain. Des mamans à qui on enlève leur fœtus, des mamans enceintes poignardées, enterrées vivantes, toutes des victimes qui ne savent même pas pourquoi. Devant le silence international, je suis présente parce que je voudrais que la Convention des Nations Unies qui a été signée le 13/04 s'applique, parce que c'est déjà signé. Et pourquoi il y a le silence total et que cela continue, les femmes, les enfants payent. Qui organise la guerre, ce ne sont sûrement pas les femmes, c'est l'homme. Donc dans notre lutte générale de toutes les femmes, dans toutes les causes qui nous sont toutes communes, en voici une particulière à notre pays et que je demande que les nations internationales appliquent, parce que c'est du droit international. Voilà.
Maintenant, on va écouter Claps, Claps, les femmes en noir.
Bah écoutez, on est le groupe des femmes en noir de Belgique qui s'oppose particulièrement au centre fermé aux expulsions. Donc on trouvait logique de rejoindre l'ensemble du réseau des femmes en noir pour manifester avec nos objectifs à l'intérieur du réseau des femmes en noir.
C'est quoi le réseau des femmes en noir?
Alors, en fait, c'est un réseau informel qui s'est créé au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. Et je crois que c'est les femmes yougoslaves qui se sont mises ensemble pour s'opposer au conflit yougoslave et revendiquer la paix entre les différentes factions yougoslaves. Et alors il y a des groupes de femmes en noir également en Israël et en Palestine qui ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire au-delà des conflits entre les différents gouvernements, créer des réseaux pour revendiquer le pacifisme et voilà.
Tu peux peut-être nous en dire un peu plus.
Oui, en fait, c'est juste une question de chronologie parce que en Belgique, on est très sensibilisé aux femmes en noir de Belgrade puisque le groupe s'est créé en solidarité avec ces femmes-là.
Mais
les pionnières, c'était en Israël et en Palestine. D'ailleurs, je crois que l'une la femme qu'on a entendue avant, ça devait être Ruth, celle qui a marché en début de cortège en tenant la main d'une Palestinienne.
Maintenant, des femmes de Haïti.
Bah, c'est important pour moi pour que tout le monde ait le même droit, les femmes et les hommes. Donc on est tous pareils, il n'y a que le sexe qui est différent et on a tous le même cerveau, on a tous quelque chose dans la tête. Donc on doit avoir les mêmes droits et on ne doit pas être soumise à l'autorité des hommes, mal, si on peut dire comme ça.
Est-ce que tu trouves que ça s'intègre dans un mouvement plus large, par exemple la lutte contre la globalisation? Est-ce que la lutte des femmes peut s'intégrer là-dedans?
Bien sûr, la lutte des femmes doit s'intégrer là-dedans et puis les femmes doivent aussi mettre de même pour pouvoir aussi contrecarrer les pouvoirs autoritaires des hommes qui nous tuent.
Et tu peux préciser en quoi c'est lié à la lutte contre la mondialisation, la pauvreté? Est-ce que les femmes subissent plus cette mondialisation?
Bien sûr, elles subissent plus puisque ce sont elles qui restent à la maison la plupart du temps. Ce sont elles qui n'ont pas le droit à l'emploi la plupart du temps et ce sont elles qui sont sous-payées aussi la plupart du temps. Donc si une femme va travailler, bon, pour ne pas rapporter moins à la maison, elle a tendance souvent à laisser partir travailler son mari pour rapporter plus à la maison. Mais si la femme a les mêmes droits, elle a les même doit d'aller travailler, faire ce qu'elle a envie de faire comme tout le monde. Pourquoi?
C'est vraiment génial d'entendre, pour moi c'est vraiment jubilatoire d'entendre comme ça sur une heure des femmes du monde entier dire...
Oui, mais c'est très triste aussi en même temps de constater que vraiment c'est général et que... Il n'y a rien qui bouge du côté des hommes et que c'est au contraire le blackout complet.
John Scott a dit que les femmes n'ont pas de solution simple, elles n'ont que des paradoxes à offrir. Et je crois que c'est vraiment cette marche parce que d'un côté, elle est historique, elle est bouleversante, elle nous a fait quand même un grand bien. Et puis de l'autre côté, ben, partout, dans toutes les langues, c'est sous-payé, surmaltraité, surmortalité. Sous-existence, enfin, c'est très impressionnant et c'est assez difficile finalement à gérer émotionnellement parce qu'on passe d'un instant à l'autre de la colère à la gaieté, de la solidarité à l'isolement, c'est vraiment...
C'est ce que tu disais, hein, avoir vécu cette espèce de... On faisait partie d'une immensité extraordinaire, cette foule de femmes, c'était fantastique. Et puis d'un autre côté, on était complètement isolés, même à 30 000. Parce qu'on se retrouvait enfermé entre quatre murs, quoi. C'est vraiment ça, comme tu dis. En même temps, la fabuleuse solidarité entre toutes les femmes qui a été
le rendez-vous a été tenu. Les femmes sont venues.
Les femmes sont venues. Elles ont été solidaires. Elles sont solidaires les unes des autres. Et puis d'un autre côté, l'éclatement après, on est toutes retournées chacune dans nos régions. Et quoi? Hein, tout ça pour être complètement ignoré, encore une fois.
Non, écoute, regarde, on a déjà assez dit ici.
Oui, d'accord, mais ici...
C'est un début.
Oui, je suis d'accord, mais tant mieux que tu es optimiste. Mais
moi,
ça
franchement, s'est toujours passé comme ça, tu sais, par exemple, le MLF, c'était le Figaro, donc un journal conservateur de droite qui avait appelé les féministes comme ça. Et je crois que souvent, la brimade, la répression ont donné encore plus d'élan à la force qui allait combattre ces brimades et ces oppressions. Et je crois que peut-être que justement, c'est un petit peu comme quand on touche le fond de la piscine, qu'on balance un grand coup de pied et qu'on remonte plus vite. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a, ben, tu sais, le prochain ministre lesbien, c'est comment positiver la colère. Et ben, je crois qu'on va s'appliquer à ça.
Oui, on va s'appliquer à l'exercer et à ce que ça devienne pratique, effectivement.
On écoute des femmes de Herstal.
Pourquoi est-ce que vous êtes jointe à la manifestation des femmes contre la mondialisation néolibérale ?
Parce que dans le cadre général, dans une société où il y a une exclusion de manière générale, la question des femmes est aussi importante et nous sommes là aussi pour ça en tant que femmes.
Est-ce que vous trouvez que les femmes ont plus de raisons encore de venir se battre contre la mondialisation ? Est-ce qu'elles sont plus victimes que les hommes de ce monde global qui impose la pauvreté ?
Ben, il y a 1,3 milliard de gens qui souffrent de la misère noire et parmi ceux-là, 70% sont des femmes. Donc c'est une réalité, oui. Donc c'est notre devoir de se battre, oui.
Et vous venez d'où ?
Nous venons de la province de Liège. Herstal, plus exactement.
Vous êtes des syndicalistes ?
Moi, je suis déléguée FGTB, oui. Je travaille chez Aldi. Je viens d'être fraîchement élue conseillère communale à Herstal, sur la liste PTB+.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, je suis ici pour dire que nous existons et que, contre la mondialisation, effectivement, les femmes ont un poids certain et qu'il faut se battre pour ne pas être réduites davantage, parce qu'on l'est déjà.
Ah, des commentaires ? C'est toujours, hein, je balance entre la fascination de tous ces discours qui viennent de partout et qui en même temps se répercutent en écolocation, si je puis dire, à travers l'histoire, c'est-à-dire ça fait 30 ans que je pratique la lutte contre le pouvoir hétéropatriarcal et patriarcal, mondialisation, néolibérale, etc. Eh bien, je me dis que c'est en même temps effrayant de se rendre compte qu'on est de plus en plus englouti. Cette femme qui vient de dire que oui, qu'on est de plus en plus mal, mais c'est vrai, la mondialisation est en train de nous engloutir et nous avons encore eu la preuve avec cette presse capitaliste, libérale et même la presse de gauche qui finalement n'a pas du tout été presse de gauche aux mains des hommes. Donc c'est quand même extraordinaire de se rendre compte que l'histoire se répète. Ça m'effraie. Bon, je ne sais pas ce que vous avez à dire, vous autres. Vous êtes beaucoup plus jeunes, évidemment.
Moi, j'ai juste l'impression que la mondialisation déplace le mal-vivre. Puisque, en fait, par exemple, même dans les pays africains, on a gagné beaucoup plus d'espérance de vie. Puisque, avant, avec l'esclavage et ce genre de choses, il y a des gens qui sont en train de vivre qui ne seraient même pas nés. Mais cela dit, j'ai un peu l'impression que ça tient aussi de l'acharnement thérapeutique, qu'on maintient les gens en vie pour les faire plus bosser et plus souffrir.
Oui, je trouve aussi.
Mais c'est sûr aussi qu'il y a. Bon, les grossesses précoces et problèmes restent la première cause de mortalité des femmes, mais reste que, par exemple, chez nous, le taux de mortalité maternelle est quand même très très faible, les genres de choses. Ça gagne quand même, et notamment l'éducation, même dans les pays sous-développés. Il y avait, un truc dont je voulais vous parler, mais on n'a plus le temps, là, il est l'heure. Il montrait que quand le taux d'alphabétisation des femmes augmentait, directement le PNB augmentait aussi.
Ah oui. Mais partout maintenant, de plus en plus, c'est vrai que les critères doivent être revus parce qu'il n'y a pas que le PIB. Hein. Il y a peut-être des pays qui ont des PIB extraordinaires, mais qui au niveau du développement...
Cet été, j'ai fait un truc sur les indices de développement.
Oui, c'est ça, les indices de développement, il faut absolument en tenir compte de plus en plus, parce que c'est vrai que là où l'indice de développement des femmes est quasi nul, eh bien le pays... croule sous la misère, la santé qui est dépravée, bref, il n'y a rien qui va. Donc c'est vrai qu'il faudrait que le FMI revoie sérieusement ces critères, qui sont toujours les mêmes, qui sont des critères masculins.
Oui, parce que le FMI s'applique à casser tout le système éducatif et le service public, alors que c'est aussi ce qui permet de créer la richesse après.
Absolument. Absolument. Mais je crois que c'est une question justement de pouvoir, encore une fois, hein. Les gens qui détiennent, qui sont dans la bulle financière pour le moment et qui sont quelques pourcents, ils détiennent 80 à 90% des richesses mondiales et ils sont situés uniquement en Amérique du Nord et en Europe. Alors ça, c'est un scandale. Et ceux-là, évidemment, il n'y a que des hommes là-dedans. Ça commence à poser un sérieux problème concernant la solidarité. Et est-ce que l'humanité existe déjà ? Ben, je ne crois pas, je crois qu'on n'y est pas encore. Les êtres humains sont des sous-humains encore. Enfin, il faut dire que les hommes plutôt sont des sous-femmes. Je ne sais pas qui a sorti ça lors de la manif, de la marche, mais c'est vrai que le monde des hommes est très peu évolué. Et
revendiquer l'égalité des hommes avec les femmes.
Oui, il faudrait peut-être revendiquer l'inverse. C'est ça. Je pense que c'est le mot de la fin pour l'émission. Qu'en penses-tu, Cécile ?
Ben moi, j'aimerais bien encore écouter des femmes kurdes.
D'accord, on termine par des femmes kurdes.
Que nous luttons contre le droit de toutes les femmes de tout pays, et particulièrement pour les femmes du Kurdistan, sachant que les femmes du Kurdistan, elles votent pour un pays autonome. Et actuellement, ça fait un siècle que nous sommes pratiquement en mauvaise entente, en guerre avec l'État turc, surtout avec l'État turc et les diplomates turcs. Et ce que nous revendiquons, c'est notre identité, l'identité de la femme kurde, du peuple kurde, et ainsi de suite dans tous les pays. Et justement, nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous existons, et que toute l'opinion publique y voit effectivement que la femme kurde, elle est là, elle existe, malgré le manque de liberté qu'on nous donne dans nos pays, dans nos familles, et ainsi de suite. Nous voulons simplement notre identité et le droit de la femme dans tout pays.
Et en fait, vous venez d'où ici ?
Pardon ?
Elle aussi, elle vient parler.
Oui.
Vous venez de quel pays en Europe ?
Nous venons de France. Hein. Nous venons de France, dans la région de Moselle et d'Alsace. Il y a beaucoup de femmes. Bon, elles sont toutes là, mais bon, il y en a beaucoup aussi, qui manquent. Bien sûr, il y a d'Allemagne qui viennent, il y a de Belgique, du Luxembourg. Effectivement, nous lions tous, nous nous unissons surtout tous pour le droit de la femme. Et effectivement, pour l'identité de la femme et du peuple kurde, c'est très important. Ça fait des années que maintenant nous sollicitons ça, sachant que notre leader est actuellement emprisonné et condamné à mort en Turquie. Nous sollicitons sa liberté. Ça a été un complot contre lui, un complot avec d'autres pays, effectivement, pour l'emmener en Turquie. Et le peuple kurde ne peut pas vivre sans son leader.
Ya az Türkçe istersen söyleyeceğim. Ya söyleyin biz yaklaşık yani Türklerin bildiğiniz şehirleri hepsi Kürttür. 30 milyon Kürt yaşıyoruz. Evet. Ama hala Kürt ismi yasaktır.
Bon, ben on ne savait pas à l'avance ce qu'il y avait.
Oui, mais justement, c'est ça. Il y a aussi le danger que des femmes revendiquent des ethnies, d'une certaine ethnie ou pas. Bon, moi là, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis contre les nationalismes, je le redis. Je suis contre les ethnies. C'est source de guerre, c'est source de conflits. Et là, je ne suis absolument pas d'accord. Je ne peux pas suivre ces femmes qui viennent revendiquer le droit de la femme kurde uniquement. Je suis pour que les femmes kurdes puissent s'exprimer, qu'elles sortent de cette misère dans laquelle elles sont. Mais au nom d'un leader qui est un mec qui a du sang sur les mains, qui est un guerrier, là je ne suis absolument pas d'accord. Je ne peux pas marcher main dans la main avec une femme qui dit ça. Là, je crois qu'elle
c'est certain qu'elles sont manipulées.
Elles sont manipulées politiquement, absolument.
Comme les enfants qui vont se faire tuer sur les Israéliens.
Exactement.
Donc, des années et des années de brimades. Tu fais faire n'importe quoi aux gens, tellement ils n'en peuvent plus. Hein.
Oui, du bourrage de crâne. Des
manipulations classique.
Manipulation, des harcèlements, et puis voilà, les gens font n'importe quoi et disent n'importe quoi. Mais bon, ici, il faut quand même dire que nous sommes contre les nationalismes,
oui,
et contre le relan ethnique qui se propage comme une poudre enflammée. Je trouve ça, franchement, non, ça c'est rebutant.
Nous sommes contre la mondialisation capitaliste, mais pour la mondialisation de la solidarité.
Et de la solidarité. Oui.
Et des mélanges de cultures.
Mélange, oui.
Et de
solidarité variété, internationale.
Oui.
On va terminer avec Shirley Bassey, qui chante « I who have nothing ».
I have nothing. I have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. You buy her diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that you can give the world, but she'll never love you the way I love you. You can take her any place she wants, to fancy clubs and restaurants, but I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. I have nothing. I have no one. Must watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else, the darling is ours, who love you.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, mesdames.
Eh bien, au revoir à toutes et à la semaine prochaine aussi.
Bonne nuit. Je passe la parole à